Vous écoutez le Serment d'Hippocrate, un podcast où l'on parle des choses qui affectent notre santé mais ne se trouvent pas en pharmacie. Ici, on s'intéresse à l'alimentation, au sommeil, à la méditation ou à l'activité physique. Tout ce qui a un impact profond sur notre santé est bon à découvrir, étudier et discuter. On y trouve des médecins, des professionnels de la santé, des experts, mais aussi monsieur et madame tout le monde, parce que la santé est souvent une aventure personnelle. Bienvenue au Serment d'Hippocrate. Aujourd'hui, j'accueille Édouard Courreau, docteur en pharmacie, reconverti dans la micronutrition et passionné de cyclisme. Bonjour Édouard.
Bonjour Ben, bonjour tout le monde.
Bienvenue sur le podcast. J'ai découvert ton activité parce que tu as fait une intervention avec un de nos invités précédents, Benoît Nave, et j'ai tiqué tout simplement sur ton parcours. Donc d'un doctorat en pharmacie, tu t'es tourné vers la micronutrition, tu m'as dit que tu étais consultant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en fait tout ce parcours, déjà passé d'un milieu on va dire très médical à quelque chose qui finalement est... J'ai l'impression que moi, c'est presque catégorisé comme du paramédical. Enfin, tu vois, si tu vois ce que je veux dire par là. Mais, enfin, tu peux nous expliquer un peu ce cheminement. Et puis, présente-toi.
Donc tout à fait. Donc, je m'appelle Édouard Courreau. Je suis effectivement docteur en pharmacie. Donc, après le bac, j'ai tout de suite fait, en fait des études de pharmacie parce qu'en fait, j'ai toujours été passionné par les sciences d'une façon générale et notamment par la santé. Donc, la pharmacie, finalement, répondait bien à ces attentes-là. Et donc, de fil en aiguille, donc quand j'ai fait mes études, c'était bien évidemment très passionnant en termes de santé. Le problème, c'est qu'en arrivée en officine, hein, puisqu'il y a différentes voies possibles en pharmacie, moi, j'ai choisi la filière officine, c'est-à-dire travailler dans une pharmacie de ville. Sauf qu'après quelques années d'expérience, on se rend très vite compte que la santé telle qu'on la conçoit et telle qu'on l'apprend, on se rend compte que ça a vraiment de grosses limites et que quand on est vraiment en fait passionné de santé et qu'on veut aller au bout des choses, on se rend compte que la médecine, entre guillemets, telle qu'elle est pratiquée dans une pharmacie, eh bien, on est loin de la vraie médecine holistique, c'est-à-dire la médecine qui juge sur tous les aspects de santé. Donc, moi, ayant toujours été passionné de la santé profonde, de l'hygiène de vie, c'est aussi mon mode de vie, je suis tombé un peu petit à petit dans la nutrition, la micronutrition. Et donc, de fil en aiguille, je me suis spécialisé dans ce domaine-là, en passant donc notamment un diplôme universitaire. Et puis finalement, quand je suis tombé dedans, c'est un peu comme quand on tombe dedans, on ne peut plus faire marche arrière, quoi. C'est un peu comme un virus qui nous contamine. Une fois qu'on a cette vision de la santé d'un point de vue prévention, d'un point de vue nutrition, micronutrition, on ne voit plus en fait la médecine du médicament comme avant, et à tel point que moi, ça m'a dégoûté et c'est ce qui m'a fait en fait franchir le pas de façon vraiment irréversible, entre guillemets, dans ce milieu de la micronutrition, pour vraiment aller au bout des choses en termes de santé. Mais ce bagage scientifique de pharmacien m'aide quand même, malgré tout.
C'est un petit peu comme ça que... Enfin... Moi, je me suis intéressé à la santé. C'est quelque chose que, enfin, je sais que je connaissais de, on va dire, des connaissances scientifiques assez basiques, c'est le genre de choses que tu apprends à l'école, quoi, tu vois. Et tout d'un coup, me rendre compte que finalement, il y avait tout cet espèce comme un autre pan, tu sais. C'est un peu l'image de l'iceberg, tu sais, où tu vois que la face immergée. Et la partie immergée, en fait, c'est notre système médical conventionnel. Hein, c'est-à-dire que tu vas trouver du coup tous les médicaments, tous les traitements. Mais tout ça, c'est posé et c'est parfaitement valide. Je veux dire, c'est des choses qui sont lourdement étudiées, très développées. C'est vraiment la pointe en fait de notre recherche scientifique. Mais c'est quand même posé sur une énorme base qui est en fait plutôt liée au mode de vie. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est ce que tu connaissais du monde médical, qui était ton point de contact en général, ton médecin généraliste. Était en fait vraiment juste une toute petite partie en fait de la connaissance scientifique autour de la santé.
Tout à fait. En fait, c'est la médecine du médicament classique. Il faut sortir de ce paradigme entre guillemets où c'est pas la médecine avec un grand M. C'est en fait qu'une petite partie de la médecine, mais c'est malheureusement celle qui est exploitée en fait tout le temps et par lequel tout le monde ne voit que ça finalement. En pensant qu'il n'y a que cette médecine qui constitue la médecine, alors qu'en fait, c'est une partie de la médecine qui est celle qui va explorer les traitements par la voie pharmacologique, chimique, donc les médicaments. Donc, bien évidemment, ce n'est pas une médecine qu'il faut mettre à la poubelle. On est tous très heureux qu'il y ait des médicaments qui existent. Ça sauve encore des millions de vies tout le temps, bien sûr. Mais de là à ne voir que par ça et avoir l'impression qu'on peut tout soigner que par cette médecine pharmacologique, c'est une erreur. Et d'ailleurs, on le voit surtout dans les maladies chroniques. Autant les maladies aiguës, elle est très bien traitée par la médecine pharmacologique, autant les maladies chroniques, bien, il y a un véritable échec en fait, de la prise en charge pharmacologique, puisque toutes les maladies chroniques, finalement, elles ont souvent un fondement sur l'hygiène de vie, sur des choses comme ça, sur la prévention. Et tout ça, tous ces versants-là, on ne l'explore pas dans la médecine du médicament.
Alors, justement, c'est un peu ce dont on voulait parler aujourd'hui. Et je me suis dit donc qu'on pouvait se fixer quelques thèmes. Et j'ai utilisé du coup une intervention que tu as fait avec justement Benoît pour nous faire une petite trame. Je me suis dit qu'aujourd'hui, on pouvait couvrir plusieurs choses. On s'est mis un peu d'accord. Je voulais qu'on parle des calories parce que c'est un truc qu'on utilise beaucoup dans l'alimentation et je trouve que c'est souvent mal exploité en tout cas par les gens. Je voulais qu'on parle de certains micronutriments un peu essentiels, que ce soit les acides gras, les protéines, les minéraux. Ensuite, j'ai repris quelques questions que tu avais fait avec Benoît justement où on parlait donc des glucides et des lipides et comment l'un ou l'autre fait grossir. Et donc, où est-ce qu'il y a un peu de confusion là-dedans? Qu'est-ce que c'est que le cholestérol en gros et comment ça marche? Et puis, on s'était gardé une petite question si on a le temps de rentrer dedans, du coup, aussi pour parler d'acide lactique, parce que ça aussi, c'est quoi? donc, on va avancer un petit peu dans ce format-là. Je te propose qu'on se lance un petit peu avec cette notion des calories. Et donc, ça, c'est un sujet que je t'ai amené parce que. Je vois souvent en fait cette idée de comparaison des calories, c'est-à-dire qu'on compare une calorie dans un, on va dire, allez, on va prendre deux produits, imaginons dans un saucisson et une barre de céréales, d'accord, et on va dire tiens, à quantité telle, ils font le même niveau de calories, donc c'est autant d'énergie, sauf qu'en fait moi ce que j'en sais, et tu me corriges si je me trompe, mais c'est que il y en a un qui va tirer la majorité de ses calories des glucides, et donc là, la barre de céréales, et l'autre, la majorité de ses catégories des lipides. Et parce que ce sont deux macronutriments qui sont radicalement différents, ils ne vont pas du tout avoir la même réaction au niveau du corps en termes de production hormonale. Et donc, cette production hormonale va vachement conditionner la manière dont on va exploiter l'énergie, donc les calories, parce que la calorie, c'est juste c'est une unité d'énergie, en gros, quoi. Et donc, comment on va l'exploiter dans le corps? Est-ce que tu peux juste nous faire une synthèse un peu de ce que c'est qu'une calorie et pourquoi c'est un peu plus compliqué en fait.
Ouais. Alors effectivement, c'est un sujet qui mériterait vraiment presque des heures de développement tellement c'est complexe si on veut bien. En fait, les calories, c'est l'énergie qui est contenue dans un aliment. En fait, l'énergie qu'on apporte des aliments, il est contenu d'un point de vue chimique dans la matière qui compose finalement l'aliment. Donc, il y a trois principaux ce qu'on appelle les macronutriments, donc c'est-à-dire qui vont apporter l'énergie vraiment de l'organisme. Ce sont les glucides, donc les sucres, les lipides qui sont les graisses, et également les protéines. Donc ça, c'est les trois gros macronutriments qui vont être pourvoyeurs d'énergie dans l'alimentation. Effectivement, donc l'énergie qu'ils contiennent, c'est quelque chose de théorique, c'est-à-dire que d'un point de vue chimique, ils renferment cette énergie-là, mais ça ne renseigne en rien. En fait, c'est qu'un chiffre, ça ne renseigne en rien sur finalement le comportement que l'aliment va avoir sur l'organisme d'une part, et également sur la quantité de calories qu'on va réellement pouvoir exploiter de l'aliment. Parce que en fait, en fonction des aliments, on va pouvoir extraire plus ou moins de calories en fonction de ceci. Et ça, ça fait intervenir une notion qui est également hyper importante, c'est la notion de matrice alimentaire. C'est-à-dire qu'en gros, en fonction de la structure moléculaire, si on veut, de l'aliment, les calories et même les nutriments qui sont dedans ne seront pas disponibles de la même façon. Donc, la matrice d'un aliment, c'est un peu comme si c'était le béton d'un mur, en fait. C'est ce qui vient emprisonner, c'est ce qui vient emprisonner, en gros, tous les nutriments. Et dans certains aliments, il faut savoir que cette matrice, elle est quasiment inexistante. En fait, donc dans tous les produits, par exemple ultra transformés, vous avez déjà une matrice qui est quasiment prédigérée, qui est déjà complètement explosée. Donc finalement, les calories que ça contient seront beaucoup plus agressives, beaucoup plus disponibles pour l'organisme pour exercer leur effet délétère, comparé à des aliments qui sont beaucoup plus bruts, dans lesquels, pour une quantité de calories donnée, la matrice étant tellement complexe, donc avec des fibres, avec des choses comme ça, ça fait que déjà on n'absorbera pas la même quantité de calories. Donc ça, c'est une chose. La conséquence aussi de cet effet de matrice alimentaire, c'est que le fait que les calories soient beaucoup plus disponibles quantitativement, ça va également, en termes de conséquences hormonale, eh ben, ça va être beaucoup plus important. Donc, par exemple, les aliments qui sont ultra transformés, donc qui passent très vite dans le sang, ils vont avoir comme conséquence d'engendrer une sécrétion, par exemple, d'insuline, qui est beaucoup plus importante que les aliments bruts. Et cette insuline, donc, qui est une hormone qu'on connaît surtout pour son effet sur la régulation de la glycémie, mais l'insuline, elle a aussi et surtout un effet qui est très important, c'est de stocker l'excédent de calories sous forme de gras. Donc là, ça donne déjà un petit peu un élément sur les raisons de la prise de poids. Mais voilà, donc en gros, une calorie en tant que telle, on ne peut pas comparer en fait les calories entre elles, si vous voulez. C'est qu'un chiffre, en fait. Il faut plutôt évaluer l'aliment dans sa globalité plutôt que les calories en tant que telles.
Pourtant, sans m'être penché plus que ça dessus, j'ai quand même cru comprendre qu'il y avait des gens qui étaient persuadés que ce modèle de calories faisait que toutes les calories se valaient. Donc, il y a quand même des gens qui en sont convaincus et apparemment qui interviennent sur la place publique. Hein. Enfin, c'est pas des gens enfermés dans une cave qui s'expriment à 5. Enfin, voilà. Il y a quand même, je pense, suffisamment de monde qui a l'air de penser, et enfin, moi je suis pas d'accord pour le coup, mais et toi non plus si je comprends, mais qu'on peut comparer les calories bêtement en fait.
Ouais, alors que c'est pourtant une erreur. Enfin, sont d'une façon générale, l'avis d'une majorité de personnes n'est pas forcément l'avis réel. Après, il faut se baser vraiment sur les faits physiologiques, sur les faits scientifiques. Et je pense que ce que j'ai expliqué, ça reprend certains de ces effets physiologiques et scientifiques. Donc voilà, les calories, c'est assez complexe. Ce ne sont que des chiffres, en fait. Donc, ça ne renseigne rien sur l'effet que ça va avoir sur le métabolisme, ni la quantité qu'on va réellement absorber. En plus de ça, finalement, comment on est capable d'estimer également ses besoins en calories? Ça, c'est également très compliqué. Parce qu'en fait, ça dépend de tellement de paramètres. Ça dépend de l'âge, ça dépend du sexe, ça dépend de l'activité physique. Ça dépend de l'efficacité de la thyroïde. Hein. Donc, la thyroïde qui va, en gros, c'est un peu l'accélérateur de l'organisme. Donc, c'est ce qui va régler le niveau du métabolisme du corps humain. Donc, en fonction des personnes, c'est bien sûr très variable. Il y a plein de choses qui vont faire que… on parlait tout à l'heure également de l'effet de la fameuse matrice alimentaire. Il y a également des paramètres qui vont intervenir dessus pour un même aliment. C'est-à-dire qu'en fonction de la cuisson, par exemple, va pouvoir… dénaturer davantage la matrice et donc rendre ses calories encore plus agressives, entre guillemets, si je puis dire.
C'est ce qu'on avait commencé à voir avec Benoît, justement. Il nous avait fait une petite définition que j'avais trouvée assez pertinente. Il nous avait expliqué un peu ce que c'était qu'un aliment transformé versus ultra transformé. Et du coup, je me permets de réitérer un petit peu ce qu'il avait dit avec mes mots, mais c'est l'idée que, imagine que tu prends une carotte, tu cuis cette carotte, tu la transformes. Okay. Elle est désormais cuite. Si tu en refais une purée, tu la refais du coup une nouvelle transformation. Donc imagine, j'ai cuit à la vapeur, ensuite j'en fais une purée. Je me retrouve avec ma purée de carotte. Ma purée de carotte, je vais en refaire, disons derrière, peut-être un gâteau, parce que tu peux faire des petits gâteaux à base de carottes, c'est pas mal d'ailleurs. Et du coup, j'aurais eu quand même pas mal de processus de transformation. Et donc, cette carotte en tant que telle, si on ignore tout autre ingrédient que je mets avec, le simple fait que je l'ai transformée trois fois, elle va être beaucoup plus rapide à assimiler pour mon corps, parce que je l'aurais cuit trois fois. Et donc, par exemple, j'aurais cassé quasiment toutes les fibres de la carotte par rapport à la carotte crue du départ. Et donc, certains aliments... comme les glucides, par exemple, présents dans la carotte, seront plus disponibles parce qu'ils ne seront pas emprisonnés dans les fibres. L'exemple que ensuite Benoît nous avait donné pour ça, que je trouve pas mal, c'est de dire que on va prendre, par exemple, un produit laitier. Alors, je ne sais plus quel exemple il a utilisé, mais je vais le transposer sur le produit laitier. Imagine, tu prends du lait et je vais séparer les principaux éléments du lait. Je me retrouve avec de l'eau. Je me retrouvais avec du lactose, je me retrouvais avec de la caséine et des lipides. D'accord ? Et voilà, j'ai quatre ingrédients maintenant et je vais les envoyer aux quatre coins de la planète. je vais aller faire par exemple de la poudre protéinée avec ma caséine pour les boissons sportives d'un côté. Je vais refabriquer ou je vais les recomposer ensemble ailleurs et je vais refaire un fromage. Alors que j'avais déjà du lait, hein. J'aurais pu faire cailler mon lait, mais en fait, je vais aller les retraiter derrière. Et donc là, on rentre sur des processus de transformation qui sont tellement plus violents que ma cuisson à la vapeur à la maison, que le niveau de disponibilité des macronutriments qui sont dedans est démultiplié. Donc on est bien bien loin de ma carotte cuite trois fois là. Il faut se dire, je ne sais pas s'il y a des chiffres pour ça, mais c'est un peu comme si j'avais fait 75 cuissons sur ma carotte, quoi. C'est incomparable.
Oui, exactement. Et en fait, pour rebondir pardon, sur ce que tu as dit, c'est que le processus d'ultra-transformation, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait, effectivement, on va prendre un aliment et on va finalement extraire chacun des nutriments isolément. Donc, en fait, on va extraire tous les nutriments de la fameuse matrice alimentaire dont je parlais pour extraire en fait juste les nutriments. Et à partir de ces nutriments, on va les recomposer selon une certaine quantité, en certaines proportions, avec éventuellement d'autres additifs chimiques, d'ailleurs le plus souvent, pour en faire un nouvel aliment. Et encore, je ne sais même pas si on peut appeler ça des fois un aliment.
Il y a des aliments où on n'a même pas le droit de les appeler, en fait, de les appeler tels qu'ils sont. C'est le cas de la préparation fromagère, qui est, je pense, le meilleur exemple. C'est-à-dire que c'est des produits qui sont faits à partir des éléments d'un produit laitier, mais parce qu'ils sont complètement recomposés, ils n'ont même pas le droit d'appeler ça fromage, ils sont obligés d'appeler ça préparation fromagère. Alors, je n'ai pas d'exemple spécifique en tête comme ça, mais c'est un peu le truc comme les espèces de fromage frais qu'on trouve en emballage individuel parfois, on verra indiquer préparation fromagère dessus. Donc, c'est exactement ce que tu décris. Quoi. Est-ce qu'on peut du coup... ça donne un peu une idée des calories. Et comme tu as dit, il faudrait effectivement se prendre 3-4 heures pour en parler. On n'a pas 3-4 heures devant nous. Mais essayer de comprendre que c'est pas une unité à laquelle on peut vraiment se fier. C'est vrai qu'il faut plus peut-être s'intéresser à d'autres valeurs et comprendre un peu mieux comment, par exemple, les macronutriments fonctionnent dans le corps. Ça aussi, ça mériterait 3 heures. On va peut-être pas se plonger là-dedans aujourd'hui. Mais surtout qu'on a un petit peu parlé dans notre podcast, donc j'invite les gens à se référer à ça. Mais puisque tu es expert en micronutrition, ça serait bien en fait de parler de micronutriments. Et un truc, tu me dis micronutrition, je vois ce que c'est. Je veux dire, c'est les éléments de l'alimentation que je connais qui ne sont pas les macronutriments, protéines, lipides, glucides. Mais c'est un peu difficile de dire les micronutriments importants pour la santé, c'est, tu vois, puis défiler une liste comme ça. Du coup, je me suis dit tu pourrais peut-être nous dire un peu, nous expliquer un peu quels sont ces mots qu'on connaît, qui sont effectivement des micronutriments, qu'on puisse un peu raccorder en fait les choses. Donc, par exemple, les acides gras ou protéines essentielles.
Oui, alors déjà, j'aimerais bien quand même redéfinir exactement ce que ce sont les micronutriments assez rapidement. Donc, à l'inverse des macronutriments qui, eux, vont apporter les calories, comme on vient de l'expliquer juste avant, les micronutriments, eux, en général, sauf certains en particulier, n'apportent pas de calories, en fait. Donc, micro, pourquoi micro ? C'est parce qu'ils sont présents dans l'organisme à l'état de trace, donc micro tout petit. Donc, vraiment, il y en a très peu dans l'organisme. Donc, ça va de quelques microgrammes pour certains à quelques milligrammes pour d'autres. Donc, c'est vraiment très peu dans l'organisme, mais ils sont pour autant essentiels à la vie. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas vivre sans eux. Donc, même s'ils n'apportent pas d'énergie, ils contribuent en fait au métabolisme, à toutes les réactions biochimiques en fait, qui se déroulent dans notre organisme sont dépendantes de ces fameux micronutriments. Donc, justement, quels sont-ils ces micronutriments ? Donc, ça va être grosso modo donc, certains minéraux comme le magnésium, le zinc, le sélénium, le calcium, le magnésium, je ne sais plus si j'ai déjà cité, le fer par exemple. Donc ça c'était les minéraux, il y a également toutes les vitamines. Donc, les vitamines ce sont aussi des micronutriments. Donc il y a Ben a cité aussi les acides gras essentiels, ça tu me parlais, hein. Donc les acides gras essentiels en fait ce sont des matières grasses particulières que l'organisme en fait ne sait pas fabriquer et donc il faut forcément les apporter par l'alimentation si on veut que notre organisme fonctionne bien, il faut forcément les apporter donc par l'alimentation. Donc, les acides gras essentiels, il y en a de deux types, en fait. Il y a une molécule en particulier, on ne va peut-être pas citer son nom, ça ne servirait pas à grand-chose, mais on va dire qu'il y a une molécule dans les acides gras de type oméga-3 qui est essentielle, et de la même façon, il y a une molécule dans les acides gras de type oméga-6 qui est essentielle.
Ouais.
Il y a également aussi des acides aminés qui sont essentiels, hein, donc les composants des protéines, c'est ça les acides aminés. bon, qui eux peuvent, du coup, c'est un peu l'exception, les acides aminés, ils peuvent avoir un effet donc, de calories, mais le fait qu'ils soient essentiels, en fait, c'est important parce que, bah, encore une fois, on ne sait pas les fabriquer, donc il faut impérativement, je le répète, qu'ils soient apportés par l'alimentation.
Dans cette logique-là, si donc si y a beaucoup de du coup d'acides gras, d'acides aminés essentiels, et qu'à côté on a une alimentation qui est pauvre en lipides, donc justement en matière grasse, et pauvre en protéines, est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque assez important dans nos alimentations standards à ce moment-là de enfin ce qui n'est pas très risqué de manquer de ces éléments justement?
Si on a une alimentation
Qui
riche
serait
en graisse?
non très faible justement.
Ah.
À l'inverse,
Ah oui,
si
d'accord,
quelqu'un avait une alimentation très faible en graisse et très faible en protéines, ce qui est une pratique relativement courante, est-ce qu'il n'y a pas à ce moment-là un risque, s'il y a justement des choses qui sont essentielles dans ces macronutriments, de se retrouver en carence?
Si, ouais, tout à fait. Alors, c'est important de le préciser parce qu'effectivement, comme les gras, en fait, les matières grasses sont encore dans l'esprit de la plupart des gens vraiment le mauvais, hein, justement par rapport à son effet calorique dont on parlait. Donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent en restriction de matières grasses. Donc là, ça peut être risqué parce que justement, on risque eh bien, de se retrouver également en carence de ces fameux acides gras essentiels. D'autant que les acides gras donc, de type oméga-3, par exemple, ce ne sont pas les plus couramment apportés par l'alimentation. Le plus souvent. Donc, oui, il peut y avoir tout à fait des risques.
Ouais.
Pareil pour les acides aminés essentiels, pour les gens qui ont des régimes en fait, assez particuliers, je pense, sans accuser personne, hein, mais je pense par exemple aux véganes, eh bien, qui se privent en fait, de certaines protéines relativement assez récentes, qui peuvent du coup être en déficit de certains les acides aminés essentiels si jamais ils ne prennent pas le soin de compenser par le végétal, ce qui est possible, mais pas toujours évident.
L'exemple dont on entend souvent parler, c'est des vitamines comme la vitamine B12, par exemple,
Oui, tout à fait.
Qui est souvent, ou vitamine K, je crois, mais qui sont souvent évoquées comme étant quelque chose qui est très difficile à obtenir de sources végétales, peut-être impossible, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, difficile. Mais
Alors
voilà,
pour la
enfin
vitamine
oui.
K,
Vas-y,
ouais,
vas-y.
vas-y, vas-y. Ouais, donc pour la vitamine K, en l'occurrence, pour le végétal, on en a, heureusement,
Ouais.
pour le coup, c'est tout ce qui est les choux, les choses comme ça. Donc ça, dans le végétal, pas de souci de vitamine K. Par
Ouais.
contre, la vitamine B12, c'est tout à fait juste, parce que la vitamine B12, on la retrouve exclusivement dans les produits animaux. Donc ça, c'est vraiment la grosse vitamine qui fait l'objet d'une complémentation chez les véganes et végétaliens, parce que bon, même si en fait, on dispose de réserves de plusieurs années en fait, de vitamine B12 dans le foie, tôt ou tard, si on est vegan strict, on se retrouvera en carence. Donc, il ne faut pas juste se dire, bah, de toute façon, tout va bien, ça fait 3 ou 4 ans que je suis vegan, je n'ai pas besoin de complémentation. C'est tout à fait possible parce qu'encore une fois, on a plusieurs années de stock. Mais pour autant, bah, un jour ou l'autre, voilà, si on ne se complémente pas, ça ira pas.
C'est intéressant ça, parce que c'est vrai que je connais pas mal de gens qui pratiquent ça sur des périodes plutôt courtes, sans problème particulier de santé. Après, il y a toujours des cas de figure de gens qui ont suivi ça pendant longtemps, mais enfin, on sait jamais s'ils ont fait ça de manière 100% stricte ou pas, hein, j'ai l'air. Mais c'est intéressant de savoir que bah, peut-être, enfin, j'avais déjà entendu parler de cette notion de lune de miel en fait, où au début tout va bien, surtout si tu viens d'une alimentation qui est moins bonne et qu'en fait tu améliore ton alimentation en mangeant plus de vrais aliments. Donc, le cas de figure classique, je pense un très bon exemple de ça, c'est un Américain qui s'appelle Rich Roll, que toi tu connais peut-être de nom en tout cas, parce que, mais en tout cas dans le milieu du sport, lui s'est intéressé à quoi? Il est devenu en gros ultra athlète dans ses 30 ans, il s'est tourné vers l'alimentation végane. Lui, c'est quelqu'un qui fait ça depuis très très longtemps maintenant. Je pense que ça fait son bouquin doit avoir, ouais, il doit avoir 10 ans au moins de pratique là-dessus. Bah, apparemment, sa santé va toujours très bien, tu vois. Donc, comme quoi, c'est possible. Est-ce qu'il a été ultra strict? On n'en sait rien, tu vois. Enfin, même si, voilà, c'est une alimentation qu'il pratique, il a eu un succès sportif qui est avéré. Donc, il a été quand même capable d'intervenir à un gros niveau. Mais après, est-ce qu'il s'est complètement privé de ces apports-là? Bah, peut-être pas.
Ouais, c'est là où il y a toute la question, parce qu'après, il y a beaucoup d'athlètes. Alors déjà, il y a beaucoup de personnes qui font la confusion entre vegan et
Végétarien.
végétalien, enfin, ou végétarien. Donc il y a un peu déjà une confusion au niveau de tous ces termes-là. Après, il y a aussi beaucoup d'athlètes qui se prétendent être que végétariens ou vegan, et qu'en fait, quand on s'intéresse vraiment à leur alimentation, ils ne sont pas vegan stricts. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des athlètes qui ont une alimentation très majoritairement à base de végétaux.
Ouais.
Voilà, mais pas vegan strict. Et ça, j'ai envie de dire, c'est une alimentation tout à fait normale. Il n'y a rien de révolutionnaire dans le fait de dire que avoir une bonne santé, ça passe par une alimentation qui est majoritairement végétale. Ça me rappelle un reportage qui était passé sur Netflix qui s'appelle The Game Changers. Et en fait, ils essayaient tant bien que mal de vanter le fait d'avoir un régime vegan. Et finalement, tout au long du reportage, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que finalement, le meilleur modèle, c'est d'avoir une alimentation qui est majoritairement, mais majoritairement ne veut pas dire exclusivement végétal. Donc ça fait toute la différence. En plus de ça, on ne sait pas, il y a de fortes à parier, que tous ces athlètes-là se complémentent en parallèle avec des compléments alimentaires, forcément pour combler les éventuelles carences.
Ce qui est souvent le cas d'ailleurs chez les athlètes professionnels, d'avoir un minimum d'apport en complément. Quand même très très rare. Déjà, je dis très rare parce que j'ai eu beau chercher, j'en ai pas trouvé. Donc, très très rares sont ceux qui interviennent vraiment au plus haut niveau sportif, qui n'ont pas une forme de complémentation, de supplémentation de leur alimentation. Je suis sûr que ça existe, hein, c'est juste que c'est pas forcément quelque chose que les gens mettent vachement en avant. Donc, malgré des recherches, j'ai pas réussi à trouver d'exemple de ça. Donc, et après, oui, sur le documentaire que tu cites de Game Changers, il est vraiment problématique parce qu'il est quand même réalisé par des gens qui ont des intérêts marqués. Je veux dire, le réalisateur James Cameron est quand même le créateur d'une entreprise de compléments alimentaires vegan. Je veux dire, à un moment, tu peux dire que tu arrives quand même avec un regard qui est vraiment biaisé, quoi.
Ouais,
et présente des gens comme Lewis Hamilton dans le documentaire qui, lui, a démarré une chaîne de fast-food vegan. Enfin, je veux bien qu'on y croit, mais lorsque essentiellement une partie de tes revenus non négligeable, tu vois, parce que c'est des gens qui sont plutôt aisés, non négligeable, provient de ce que tu mets en avant dans ton documentaire, il faut quand même prendre les choses avec des pincettes. Et ça, malheureusement, le conflit d'intérêts n'est pas déclaré dans le documentaire. Et du coup, ça, je trouve que ça induit vraiment en erreur. Qu'il y ait des gens qui sont présentés dans le documentaire qui ont eu du succès avec ça, oui, pourquoi pas. Mais présenter Arnold Schwarzenegger comme une espèce d'égérie du végétal, c'est se foutre la gueule du monde parce que littéralement un mec qui mangeait des bavettes par dizaines, qui a fait toute sa carrière à l'entrecôte c'est pas vraiment le genre de documentaire vers lequel je me tournerais pour des informations fiables, en tout cas.
Tout à fait, mais, ouais.
Il y a sûrement de meilleurs exemples qui doivent exister que ça, parce que ça, c'est plus un gros spot de pub pour les entreprises respectives des participants, ou leurs intérêts financiers, en tout cas.
Ouais. Et puis, en plus, il y a de gros biais scientifiques dans ce qu'ils disent, et je pense que c'est vraiment joué sur la crédulité et l'ignorance, mais c'est pas péjoratif de dire ça, mais l'ignorance scientifique du grand public, pour essayer d'impressionner, je pense notamment pour ceux qui auront vu le reportage, à la scène où, sans vouloir trop parler trop longuement ça, mais de la scène où ils comparent en gros le sérum, donc le sang, de mangeurs de viande, donc après avoir consommé de la viande, et puis, alors que j'ai envie de dire c'est physiologique, le sang est trouble, mais ça c'est complètement physiologique, quand on fait des minimum de physiologie, on sait que le gras quand il est digéré, ça fait des espèces de microparticules, enfin qu'on appelle des chylomicrons. Et ces chylomicrons, ils troublent le sang, c'est leur particularité. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est complètement physiologique, il n'y a rien d'anormal. Mais le fait, simple fait visuel d'avoir du sang trouble, forcément, les gens ils trouvent ça dégoûtant, alors que c'est complètement normal. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit aux gens de venir faire des prises de sang à jeun. C'est justement précisément pour éviter, pour qu'en fait toute cette matière grasse soit épurée du sang, éviter des interférences analytiques. Donc ça n'a rien d'anormal, c'est complètement physiologique. Donc jouer en fait là-dessus, je trouve que c'est complètement biaisé. Et voilà, il y a plein d'exemples comme ça que je pourrais citer. Mais...
Ouais, on restera pas là-dessus, mais c'est vrai que ce documentaire, je trouve peu importe la validité scientifique, d'accord. Juste, il y a vraiment une démarche malhonnête, déjà. Oui, juste dans le postulat de base. Après, tu diras, ok, ils ont cette raison, c'est pas le sujet, tu vois, c'est même pas le débat. Peut-être qu'ils ont bon et peut-être que nous on a tort, tu vois. Ça, c'est une question d'avis. Mais dans la démarche, il y a vraiment un truc malhonnête. Je veux dire, t'as aucun conflit d'intérêt qui est déclaré alors qu'on est en train de parler de grosses sommes d'argent, quoi. Donc, je veux dire, c'est un spot de pub. Et puis, comparer l'alimentation en utilisant le burrito comme valeur de référence, je suis désolé.
C'est clair.
Non, mais il faut arrêter, quoi. Enfin, ouais. Mais ça, par contre, ça me fait venir à un truc dont je voulais qu'on parle aujourd'hui, ouais. qui était sur cette notion de... Parce que il passe complètement outre la notion de glucides, lipides, enfin, c'est... Alors que c'était un documentaire qui était quand même censé parler d'alimentation, ça parle quasiment pas de macro, en fait, ça parle juste de l'origine des macronutriments, sans attacher la moindre importance à son... Enfin, auquel, tu vois, c'est juste l'origine qui compte, et pas du tout lesquels. Et du coup, on ne parle pas de notion, par exemple, de glucides et lipides, et je voulais qu'on démystifie un truc autour de ça, qui était... qu'est-ce qui fait grossière, quoi ? Parce que ce n'est pas le fait que ça soit animal ou végétal.
Tout à fait, oui, bien sûr. Ça n'a rien à voir. Bon, qu'est-ce qui fait grossir ? Donc, il n'y a pas vraiment un facteur. Hein. C'est vraiment multifactoriel. Il y a des facteurs qui sont liés à l'individu lui-même. Donc, forcément, il y a des parties génétiques qui interviennent. On parlait de la thyroïde tout à l'heure, hein, puisqu'on a dit que la thyroïde, c'est ce qui régulait le niveau du métabolisme. Donc, ça, en fonction des personnes, ça varie aussi. Donc, il y en a qui sont plus ou moins aptes à stocker sous forme de gras. Mais d'une façon générale, il y a un paramètre quand même qui est connu et qui est vraiment très impactant sur la prise de poids, bien que ce ne soit pas le seul. C'est justement la faculté qu'ont les aliments à libérer cette fameuse hormone qui est l'insuline, donc qui est déclenchée principalement après la prise de beaucoup de glucides. En fait. Qui plus est, lorsque ces glucides sont, rappelons-le, sous forme ultra transformée, parce que plus la libération des glucides sera rapide dans le sang, plus elle sera facilitée, plus bien ça va créer une décharge d'insuline. Et cette insuline, rappelons-le, elle va donc non seulement réduire la glycémie de nos aliments, mais elle va également stocker, en fait, elle va orienter le métabolisme vers tous les phénomènes de stockage et de construction de matière, donc, c'est-à-dire notamment de matière grasse. Donc ça, c'est tout ça qui fait que... Donc, je pense que la faculté à faire grossir, encore une fois, pour reparler un peu des calories, ce n'est pas tant les calories finalement qui sont importantes, bien que ça puisse jouer quand même malgré tout, mais c'est, je pense, le repas dans sa globalité, c'est est-ce que vraiment c'est un repas qui est vraiment insulinogène, c'est-à-dire est-ce que c'est un repas qui va induire de gros bouleversements au niveau de cette hormone-là, qui va faire, qui va vraiment orienter finalement notre métabolisme vers le stockage.
La manière dont, je vais te dire comment moi je l'ai compris et comment j'ai tendance à expliquer, et puis je pense que tu pourras du coup peut-être me corriger ou en tout cas préciser un petit peu, mais la manière dont j'ai compris, c'est que pour moi globalement grossir c'est une notion de stocker, d'accord, donc on grossit parce qu'on stocke des choses, donc on stocke du coup de l'énergie sous différents formats. Pour moi il y a trois réservoirs, on va dire, d'énergie. Tu as le glycogène, tu as du coup le tissu adipeux et bon, il est négligeable, mais tu as l'ATP dans le muscle. Donc l'ATP, c'est juste, je fais peut-être des simplifications, mais en gros, c'est l'ATP, c'est juste du glycogène ou des triglycérides transformés, en gros. C'est ça ?
Transformé en énergie, quoi.
Voilà.
C'est la forme directement utilisable de l'énergie qui a été convertie. Ouais.
C'est ça. Et donc du coup, quand tu vas manger quelque chose, soit tu le stockes en glycogène, ce qui est un réservoir qui est assez limité, quelques centaines de grammes, voire le plus gros chiffre que j'ai vu qui m'avait un peu surpris, c'était genre un kilo plus. Mais j'imagine que le glycogène, ça utilise beaucoup d'eau, donc ça, c'est une forme de stockage. Et ensuite, l'autre forme de stockage, l'autre réservoir, qui est une espèce de réservoir, mais massif, c'est le tissu adipeux, donc en gros la graisse du corps. Et donc, selon ce que tu manges, selon la quantité de ce que tu manges, ça va être stocké à tel ou tel endroit, mais c'est très lié en fait du coup à l'insuline, et c'est l'insuline en fait qui régule ce stockage. Elle va réguler le stockage sous forme de glycogène, elle va réguler le stockage sous forme de dans ton tissu adipeux plutôt, mais il n'y a pas que les glucides, elle va aussi stocker d'autres choses, c'est ça, hein.
Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est bien parce que tu as fait une remarque que justement j'ai oublié de préciser par rapport au glycogène et donc au tissu adipeux. Donc le fait que le glycogène, c'est effectivement un stock de sucre, en fait. Ouais. C'est l'excès de sucre qui est stocké dans le glycogène. Mais cette réserve-là, elle est limitée. Elle est limitée en quantité, comme ce que tu disais. Donc le problème, c'est que dès que ces réserves sont saturées, ça va assez vite. D'autant plus quand on est sédentaire, on ne mobilise pas ces réserves d'énergie. Donc dès que ces stocks-là sont saturés, et ben par contre on va stocker, l'organisme va stocker dès qu'il y a un excès, donc un excès avec de l'insuline, etc. Ben, il va stocker sous forme de matière grasse. Et l'inconvénient, c'est que ce stock de graisse, lui, il est illimité. C'est-à-dire qu'il va stocker, tant qu'il peut stocker, il stockera sous forme de graisse. Donc c'est problématique parce que du coup, ben, on peut prendre du poids sans vraiment s'arrêter. Donc c'est pour ça qu'aussi l'activité physique, donc là j'aborde sur un autre sujet, mais l'activité physique et notamment d'endurance, elle est primordiale aussi à ce niveau-là parce qu'elle va permettre finalement à chaque fois de mobiliser en fait et d'utiliser ces stocks de glycogène, donc en fait vider des stocks que ensuite vous allez pouvoir re-remplir donc après l'alimentation, donc sous forme de glycogène, mais ce glycogène-là il n'est pas important en termes de, enfin je veux dire c'est pas du gras. Donc c'est pour ça que l'activité physique, c'est hyper important. Alors qu'un sédentaire, lui, qui ne mobilise jamais ses réserves de glycogène, bah, il va stocker en fait, le moindre excès sous forme de graisse. Mmh. Donc voilà, ça vient compléter ce que tu dis, mais ce que tu as dit, ouais, c'était tout à fait...
Parce que la façon... Et ça, je suis assez sûr que ça a déjà fait... On est déjà un petit peu touché dans d'autres épisodes, mais cette idée que de se dire qu'en fait, il faut plutôt... une source qu'une autre, tu sais, qu'il vaut mieux tissu adipeux plutôt que glycogène. Ça, je trouve, enfin, moi, je suis pas convaincu par cette explication, c'est-à-dire que c'est plus complexe que ça, parce qu'en fait, on a une qui est très disponible, qui est le glycogène. Par contre, elle a l'inconvénient d'être très lourde et, on va dire, peu efficace en termes de stockage, parce qu'il faut énormément d'eau, en fait, pour chaque molécule de glycogène. Vous pouvez googler le ratio, moi, je le connais pas. Mais bon, en gros, il faut beaucoup d'eau pour chaque molécule. Donc c'est quelque chose qui pèse énormément. En revanche, le tissu adipeux, lui, est beaucoup plus efficace quelque part. Mais c'est vrai qu'il n'a pas de cap. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Tu continues de grossir jusqu'à ce que ce soit la fin. En fait. Donc, il n'y a pas vraiment de limite. En revanche, le glycogène, lui, il a une sorte de cap maximal. Enfin, tu ne peux pas aller au-delà d'un certain niveau. J'ai lu jusqu'à 1,5 kg, mais ça m'a toujours paru énorme.
Mais ouais, apparemment, ça me paraît beaucoup quand même.
Ça me paraît gros. Mais pour illustrer un peu comment ça fonctionne, moi, j'ai compris qu'en gros, si tu devais faire, on va dire, un effort élevé, d'accord, pas intense, mais un effort élevé, sur une longue durée, disons, quelqu'un qui va courir un marathon, donc ça va être un effort élevé, en général, il va utiliser il va utiliser les deux réservoirs, en fait. Il va taper dans le glycogène et il va taper dans son tissu adipeux. Donc le tissu adipeux, là, du coup, c'est des triglycérides qui sont stockés dans le tissu adipeux qui vont être transformés en ATP. Et le glycogène, lui, du coup, libère un polysaccharide, c'est ça?
Le glucose, en fait.
Ouais, mais du glucose, ok. Bon. Mais voilà. En bref, produit également de l'ATP, donc du coup, ça vient des deux. Il y en a un qui sert pour l'intensité, l'autre qui est plus un peu la base. C'est un peu comme se dire, c'est pas comme si tu mettais un peu de nitro dans ton moteur, quoi. Mais goutte par goutte, vraiment. Et typiquement, lorsque les gens atteignent le fameux mur du marathon, c'est souvent parce qu'ils sont à court de glycogène et qu'ils ont malgré tout. Il continue d'essayer de maintenir la cadence très élevée qui nécessitait en fait ce glycogène. Et du coup, il se retrouve uniquement sur le réservoir de fond et il ne peut plus avoir cette même intensité. Par contre, ils sont parfaitement capables de continuer. C'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent pas net. Le mur du marathon, enfin, même si les gens abandonnent parfois à ce moment-là, ils ne se retrouvent pas net arrêtés sur place. Ils peuvent continuer, ils peuvent toujours bouger. Par contre, ils sont obligés de vraiment baisser l'intensité à ce moment-là.
Ouais.
Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je me le simplifie, en tout cas. Mais...
Ouais, donc, c'est juste.
Sur cette notion de lipides et donc de graisse, il y avait un peu cette question de est-ce que les lipides, ça fait grossir? Parce qu'on se dit, le gras, c'est gros, c'est gras. Ouais. Donc, ça, si je mange du gras, bah, je deviens gras, non?
Effectivement, c'est une bonne question et j'y pensais en fait quand tu parlais tout à l'heure. C'est une remarque que je comptais faire si tu ne m'avais pas posé la question. Ouais. Mais c'est justement l'erreur en fait qui est souvent faite, c'est de se dire bah voilà, en fait, moi quand j'ai du poids, enfin quand je dis je, c'est pas moi personnellement, mais c'est à la tête de ce que tout le monde peut se dire. On se dit bah quand je prends du poids, qu'est-ce que c'est? C'est du gras, donc forcément, c'est le gras appelle le gras. Mais en fait, il faut savoir ce qu'on stocke en fait sous forme de gras dans le tissu adipeux. Alors ça peut en effet en partie provenir directement du gras de l'alimentation, mais il faut savoir que c'est beaucoup plus par les glucides, parce qu'en fait les glucides peuvent se transformer en gras. dans l'organisme, en fait. Il faut savoir que tous les, ça c'est de la biochimie, on ne va pas entrer dans les détails, mais tous les macronutriments, donc glucides, lipides et même protéines, en fait, tous convergent vers, finalement, vers le gras, en fait, quand il y a un excès. Pour peu qu'il y ait beaucoup d'insuline, encore une fois, on rappelle l'insuline qui va faire stocker, eh ben, tout va converger vers le gras, donc, et notamment les glucides. Donc, il n'y a pas que le gras qui peut donner du gras, il y a aussi les glucides, bon, les protéines aussi dans une moindre mesure, mais beaucoup les glucides parce qu'il y a en plus des deux autres macronutriments, eh ben, les glucides ils vont entraîner un pic d'insuline que feront moins les autres macronutriments. Donc, ce n'est pas que le gras qui fait grossir.
Mais voilà, tu peux grossir avec, avec des lipides, mais c'est pas le macronutriment qui provoque le plus de stockage, en fait, c'est ça ?
Non, tout à fait, ouais. Ça, c'est-à-dire que dans le cas d'une alimentation, je ne vais pas dire lipidique stricte, mais qui est majoritairement lipidique, ça se voit. D'ailleurs, il y a certaines personnes, par exemple, épileptiques, qui ont besoin d'un régime particulier qui est très riche en matière grasse, et ça peut soulager leur épilepsie. Donc, ces personnes-là qui mangent beaucoup, beaucoup de graisse ne sont pas grosses du tout, parce qu'en fait, le gras sera utilisé comme carburant normal et il ne sera pas stocké, en fait. Puis en plus de ça, c'est souvent du gras qui est finalement dans des aliments qui sont bruts, encore une fois. Donc, on rappelle, ça revient toujours à la même notion, cette notion de matrice alimentaire. C'est des aliments bruts, donc ça va être, je sais pas, des oléagineux, des huiles végétales, enfin, des trucs choses qui sont brutes. Donc, il n'y aura pas ce côté ultra transformé qui va bouleverser finalement le métabolisme et la faculté à stocker.
La manière dont j'avais essayé de le rationaliser pour ma propre compréhension, c'était de me dire vu que tu digères quelque chose, d'accord, tu vas prendre donc du coup de la matière grasse. On va imaginer le gras du cochon, ce qui parle bien, tu vois, ce fameux gras blanc, tu vois. Tu vas le manger, tu vas le digérer, tu vas en faire plein de choses, hein, mais entre autres, tu vas en sortir des triglycérides, tu vois. Enfin, et ça, c'est un élément de carburant direct. Je veux dire, ça, tu pourrais l'utiliser quasiment en direct en soi, ces triglycérides, une fois qu'ils sont dans le sang. Ouais. Donc, alors oui, tu peux aller les ranger, mais ça me paraîtrait presque illogique de casser cette matière grasse pour ensuite la refaire quelque part. C'est-à-dire que tu aurais tout un processus, beaucoup d'énergie qui serait dévouée à la sous-diviser et à la casser pour ensuite aller en refaire exactement la même chose. Alors, bien sûr, le gras du cochon et le gras humain ne doivent pas être pareils, tu vois. Enfin, mais c'est juste, je me dis, c'est un processus qui doit être, enfin, qui est presque irrationnel. En revanche, l'idée de consommer quelque chose et d'en faire autre chose, bah ça a un sens. Du coup, il y a un processus à appliquer. Je veux dire, ça me paraît presque plus cohérent. Mais je sais quand même que malgré tout, il y a une partie de tes triglycérides que tu vas quand même stocker dans ton tissu adipeux. Mais bon, je ne sais pas quel est exactement le ratio. Mais l'idée, c'est que si tu vas... c'est un peu comme casser un mur pour récupérer les briques et en refaire un mur au même endroit, tu vois. Ouais. Mais bon, ça, c'est juste ma rationalisation. Je sais que ce n'est pas exact, mais c'est une façon de me le représenter. Par contre, c'est vachement plus cohérent de me dire, je vais prendre ces éléments différents et je vais en fabriquer autre chose, tu vois. Et du coup, appliquer de l'énergie à ce processus de transformation a plus de sens. Mais par contre, la notion de stockage des glucides, et donc l'idée que tu vois, on stocke les glucides, c'est que normalement, les glucides sont rares. Et donc, si jamais tu n'as pas assez pour ton glycogène, ok, c'est pas grave, on va en faire du gras, on s'en servira plus tard. Tu vois. Ça, j'aime bien cette idée-là aussi. Tu vois. Donc, parce que les glucides, du coup, sont de plus en plus aujourd'hui mis un peu sous la lumière lorsqu'on parle d'obésité. Et le truc, c'est qu'en général, on parle du sucre. On parle, et ça, on a déjà couvert sur l'épisode qui est sorti samedi dernier. Mais cette espèce d'amalgame qu'on fait entre glucides et sucre, sans jamais dire qu'en fait, une fois que ça a passé la paroi de l'intestin et que c'est dans le sang, c'est du glucose quoi qu'il arrive. Je veux dire, que ce soit des céréales complètes, des lentilles ou du lait concentré sucré, une fois que c'est dans le sang, c'est du glucose, c'est tout. Mais du coup, c'était, voilà, pour revenir à notre question, à notre sujet, c'est oui, les lipides peuvent faire grossir, mais par contre, les glucides sont beaucoup plus à même, en fait, d'être stockés sous forme de tissu adipeux, c'est ça ?
Alors oui, par le biais de l'insuline, mais encore une fois, je voudrais encore insister sur le fait que c'est pas tant le pain. C'est même encore trop réducteur que de dire que les glucides, parce que c'est les glucides en fait, mais à juger encore une fois dans la globalité de l'aliment. C'est-à-dire que tous les glucides, encore une fois, ne se valent pas. Et ça dépend justement, encore une fois, de l'aliment dans lequel ils vont être contenus, et encore une fois, de cette fameuse matrice alimentaire. Donc, typiquement, je pense à un repas de McDo où vous avez des frites, vous avez du pain blanc, enfin, vous avez finalement des matrices alimentaires qui sont complètement dénaturées. Vous avez beaucoup de glucides, mais ces glucides-là, ils sont justement hyper biodisponibles. Donc là, effectivement, vous allez avoir ce pic d'insuline qui va les faire stocker. Alors que les mêmes glucides, d'un point de vue chimique, et en même quantité, mais dans d'autres aliments, mais qui, eux, seront beaucoup plus bruts, c'est-à-dire enfermés dans justement une matrice, hein, donc entourés de fibres, etc., n'auront pas du tout les mêmes effets, alors que ça reste les mêmes glucides en même quantité. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien juger. Non pas des nutriments, il faut bien juger des aliments. En fait, on ne mange pas des nutriments, on mange des aliments. Et c'est l'aliment en tant que tel qui peut faire que ça a des conséquences sur la santé. En fait, ce n'est pas tellement le nutriment lui-même, c'est plutôt l'aliment en fait, dans lequel il est contenu. Voilà.
C'est exactement c'est enfin ce que les autres personnes que je peux voir sur l'émission, enfin on fait ce même constat, hein, et ça c'est important, je pense, et on le dit pas assez en fait en termes de santé aujourd'hui. Que le niveau de transformation, en fait, c'est presque. Honnêtement, si on mangeait tous des aliments bruts qu'on transformait nous-mêmes à la maison, donc CF, mon analogie de la carotte,
La carotte.
Je veux dire, on n'aurait même pas. Enfin, je ne sais même pas si on aurait vraiment besoin d'avoir ces conversations sur quels macronutriments avoir. Tout simplement parce que la disponibilité, en fait, des glucides, par exemple, dans notre alimentation serait nettement, nettement plus basse. Et donc, même si on en consommait un peu trop, ben, on s'en sortirait assez bien, je pense. Enfin, ça serait moins un sujet, quoi. Parce qu'on voit bien que l'obésité augmente de manière proportionnelle, en plus, avec, enfin, l'obésité dans le monde, hein, donc, je crois que le surgras, c'est plus de 75% de la population mondiale, l'obésité, c'est genre 50%. Ou un truc comme ça, bref, je suis pas statisticien, mais il y a des pays où c'est 50% quand même. Aux États-Unis, je crois que c'est 39% l'obésité. Mais bref, en tout cas, c'est beaucoup et ça ne fait qu'augmenter. Et du coup, c'est pas parce qu'on n'est pas obèse qu'on n'est pas en surpoids. Et donc, on voit ces chiffres augmenter, mais ils sont très liés en fait, très liés à l'évolution des statistiques. Enfin, on peut comparer ça en fait au niveau de transformation de notre alimentation globale. Et je dis nous en tant que population mondiale, hein, pas juste une personne. Et donc c'est directement corrélé. En fait, plus on industrialise notre production alimentaire, et donc plus on transforme en fait nos aliments, et là, plus du coup on va observer ces problématiques liées au surpoids et aux maladies chroniques et compagnie. Donc,
C'est exactement ça. Et si tu me permets de rebondir, en fait,
vas-y.
j'aimerais ajouter deux éléments très importants. Deux facteurs très importants qui vont également expliquer la prise de poids. Donc tu en as cité un, enfin on en a cité un, c'est celui des aliments ultra transformés. On a expliqué pourquoi. Il y a deux autres facteurs qui pourraient expliquer cette prise de poids de façon mondiale et exponentielle. C'est d'une part la sédentarité. Ça, il faut bien savoir que finalement, l'être humain occidental, il est ultra sédentaire, quoi, par rapport à ce pourquoi il est programmé génétiquement, où finalement, nous, on dérive des hommes de Cro-Magnon qui. On a quasiment les mêmes gènes qu'eux. Et eux, toute la journée, ils étaient programmés pour aller chasser, se déplacer, courir. Enfin, voilà. Et quand on voit nos modes de vie où on est assis sur une chaise toute une journée, voilà, c'est complètement antiphysiologique. Donc ça, déjà, c'est un autre facteur hyper important qui explique les prises de poids hyper importantes. Et enfin, le deuxième facteur, enfin, du coup, le troisième, mais le deuxième que je n'avais pas expliqué, c'est également la carence. Du coup, en micronutriments, on parlait des micronutriments. Parce qu'en fait, on se retrouve dans nos sociétés où on a non seulement un excès de macronutriments, qui plus est sous forme dénaturée, sous forme raffinée, les aliments sont raffinés. Donc, avec cette augmentation, encore une fois, de la disponibilité des nutriments et donc le pic d'insuline. Mais en plus de ça, le fait d'avoir transformé, enfin, ultra transformé les aliments, on a dépourvu ces aliments des micronutriments qui sont essentiels. Et le fait d'être en carence de ces micronutriments, finalement, ça freine le métabolisme qui finalement ne peut pas fonctionner de façon optimale et du coup ne peut pas consommer l'énergie de façon optimale aussi. Donc ça, c'est hyper important. Quand une voiture, il manque certaines pièces pour fonctionner, forcément, elle ne fonctionnera pas aussi bien. Et l'organisme, c'est pareil. Quand on est en carence de certains micronutriments, l'organisme ne fonctionnera pas de façon optimale, ce qui peut concourir également à ces phénomènes d'obésité.
C'est super que tu arrives sur ce sujet-là, parce qu'en fait, le truc des micronutriments, par exemple, la manière dont ça m'a été expliqué, et tu pourras peut-être rajouter là-dessus, mais par exemple, une vitamine, c'est quelque chose qui est relativement fragile. C'est-à-dire que si on prend... et moi, j'aime bien prendre l'exemple de la céréale, parce que je trouve que c'est assez parlant pour les gens, et en plus, ça permet d'expliquer un peu pourquoi on dit que le pain blanc, c'est pas bon, machin truc. Mais une céréale, en fait, il faut voir ça comme une espèce de boîte. Une boîte, et à l'intérieur, il y a plein de choses. Donc, dans cette graine, en fait, dans la graine de céréales, c'est une petite boîte où on range plein de trucs, de quoi faire une plante, en fait. Donc, du coup, c'est quand même assez complet. On va trouver des protéines, on va trouver des lipides, on va trouver des vitamines. Et le truc, c'est que cette boîte, donc, qui est en gros la cosse, quoi, de la céréale, elle est là pour protéger tous ces éléments. Dès lors qu'on l'ouvre, du coup, ils sont exposés aux éléments. Si ces éléments pouvaient facilement survivre quand la cosse est ouverte, il n'y aurait pas de cosse. Donc, elle est vraiment là pour ça. Donc, le cas classique qu'on présente, c'est une farine qui a été produite va être intéressante, fraîche, en fait, dès lors qu'elle vient d'être faite, mais assez vite, les vitamines, donc, par exemple, les vitamines qu'on va trouver dans les céréales, en fait, vont se dégrader, vont s'oxyder. En tout cas, elles vont se dégrader. Je ne sais pas si c'est toutes par oxydation, mais elles vont se dégrader, ce qui fait qu'une farine qui a, 2-3 mois par exemple, il faut se dire que la plupart des paquets de farine qu'on ramasse au supermarché, potentiellement, ça a été concassé il y a un moment. Donc, je pense qu'on passe très facilement la barre des 2-3 mois, surtout que potentiellement, ensuite, nous, on la garde dans notre placard pendant 6 mois. Donc, tout dépend du volume de consommation. Mais la probabilité qu'il reste des vitamines pas oxydées dedans, de pas rester grand-chose quand même, passer un certain délai. Donc, on a endommagé en fait le profil nutritionnel de ces aliments, alors que si on remonte en arrière, on se rend compte que les gens, les populations, écrasaient leurs grains au jour le jour. Ils écrasaient pas les grains pour dans 3 semaines, ils écrasaient leurs graines pour le pain du jour. Et il y avait une raison derrière ça.
Oui, alors non seulement il y a ce, oui, effectivement, mais c'est aussi, il y a aussi le fait que quand tu dis qu'ils écrasaient leurs graines, mais ils conservaient quand même l'enveloppe, donc la boîte que tu décrivais, ils la gardaient justement quand ils écrasent, parce que nous, quand on fait de la farine de façon industrielle, en fait, on sépare, en fait, on retire la boîte que dont parlait Ben, et puis on la jette à la poubelle et on garde que l'intérieur. Mais la boîte en elle-même, elle contient, donc ce qui entoure la graine, elle contient beaucoup de micronutriments, également de fibres. Et donc, si on la jette à la poubelle, finalement, on élimine quand même une bonne partie des micronutriments intéressants. On élimine également les fibres, encore une fois, ce qui fait que ça va faire exploser l'indice glycémique qui, du coup, s'accompagne encore et toujours d'un pic d'insuline et donc tous les bouleversements qui vont avec. Donc, il y a ça. Donc, c'est ça en fait, qu'on appelle le raffinage. Le raffinage, c'est le fait d'éliminer des céréales, en fait, l'enveloppe qui est intéressante. Donc, on appelle le son, en fait, quand on en parle de son d'avoine ou de son de blé, c'est l'enveloppe en fait, de la graine qui contient tous les micronutriments. Et donc, en fait, une farine blanche, c'est une farine qui est dépourvue du son, parce que le son, en fait, normalement, c'est une couleur un peu brune. Donc, plus une farine va être blanche, plus elle va être ultra transformée. Alors qu'à l'inverse, les farines qui seront plus brunes, c'est des farines qui sont plus brutes aussi, plus riches potentiellement en micronutriments.
Ouais, et puis du coup, si on sort de toute notion de macro, parce qu'après, une céréale, ça reste quand même majoritairement des glucides. Oui. Je veux dire, si les glucides que tu consommes vont avoir un apport en micronutriments qui va être riche, leur effet, en fait, va être nettement moins délétère sur ta santé que si ils sont totalement dépourvus. Parce qu'en fait, c'est pour ça que lorsqu'on parle d'alimentation équilibrée, on parle d'intégrer des glucides dans l'alimentation, mais pour leur apport en fait en micronutriments, c'est pas juste pour des glucides. Sinon on dirait, du coup tu te fais ton tube de glucose tous les soirs et tout va bien. Mais c'est pas ça qu'on recommande.
Exactement. Ça rejoint exactement la notion dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut pas juger le nutriment, il faut juger l'aliment dans lequel il est contenu. Donc effectivement, quand on dit glucides, c'est pas le nutriment lui-même, c'est le glucide, c'est-à-dire qu'on sous-entend l'aliment qui vont les contenir, et donc avec tous les bienfaits et les micronutriments qui vont les accompagner. Ce n'est pas juste la perfusion de glucose dont tu parlais. Donc ça, c'est hyper important à savoir et à distinguer.
D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Alors, moi, j'ai un loisir qui est de lire des papiers. d'études, parce que j'ai des loisirs bizarres. Mais
j'ai le même, je te rassure.
Voilà. Et régulièrement, je vais regarder. Alors quand c'est précisé, parce que c'est rarement détaillé. Mais quand c'est précisé, quelle chose a été donnée à manger au sujet, donc que ça soit animal ou humain. En fait, on est rarement en train de dire. On leur a donné des pêches par exemple parce que d'une pêche à une autre il n'y aura pas forcément le même profil nutritionnel. Là, la pêche qui pousse en Sicile et la pêche qui pousse en Californie sont radicalement différentes et donc du coup dire on a donné des pêches à notre sujet, c'est pas quelque chose de fiable. Donc du coup on va faire nos études en fait sur généralement des aliments un peu neutres, c'est-à-dire généralement des aliments transformés. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'avantage d'être très régulier, c'est-à-dire que c'est tout le temps la même chose. Et ils sont parfois formulés, même millimétrés, et on se retrouve à faire nos études sur des choses qui ne sont pas du tout naturelles, en fait. Et ça, je trouve ça un peu bizarre, On se simplifie dans notre étude scientifique, c'est sûr, parce que du coup, on peut comparer deux études. Parce que si tu faisais deux études où chacun a utilisé des pêches, il y en a un qui a étudié ça en Sicile, l'autre qui a étudié ça en Californie, tu peux essentiellement invalider la comparaison entre les deux études. Tu dis, attends, c'est pas les mêmes pêches. Et alors qu'en revanche, tu vois, si tu dis la compote machin est tout le temps la même. Tout le temps. Tu peux en acheter dans 2 ans, ça sera la même. Elle n'a pas bougé, c'est un aliment complètement neutre. Donc là, du coup, tu peux les comparer. Mais du coup, tu es en train de faire toutes les études alimentaires sur les aliments transformés. Et donc, c'est juste une parenthèse de dire que lorsqu'on fait des études sur l'alimentation, on est quand même en train de parfois comparer des choses un peu bizarres, parce que si on veut vraiment être ultra détaillé et s'intéresser à l'interaction avec un aliment, pour avoir un truc vraiment fiable, on est obligé de partir vers l'industriel, en fait. Donc, on étudie l'effet d'alimentation industrielle sur le corps humain, quelque part. Donc, c'est un peu bizarre.
Ouais, c'est intéressant comme remarque.
Ouais. Je voulais qu'on démystifie un autre truc. Et ça, c'est parce que ça revient tout le temps. Lorsque je me retrouve à parler d'alimentation avec les gens, et je leur dis, ça serait bien d'intégrer des bonnes sources de lipides dans votre alimentation. Le cas classique, c'est les gens vont dire, mais là, du coup, si je mange ça, je vais avoir des problèmes de cholestérol. Et ouais. Le cholestérol, je pense que c'est un truc on nous a tellement présenté ça comme le truc le plus dangereux du monde. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. Le cholestérol, c'est un truc essentiel pour le corps humain. Donc déjà, pas de cholestérol, c'est pas une bonne chose. Enfin, j'aime souvent le simplifier en disant pas de cholestérol, pas de vie. Donc même si je sais pas si c'est exact, mais en tout cas, ça doit pas être trop loin de la vérité. Donc déjà, c'est un truc essentiel. Et trop d'une bonne chose, effectivement, peut être mauvaise. Mais en gros, pourquoi est-ce qu'on nous dit que le cholestérol, c'est dangereux? Comment est-ce qu'on doit revoir un peu notre vision là-dessus?
Alors c'est un excellent sujet, hein, et vraiment moi j'adore ce sujet, et clairement je pourrais tenir une conférence de 3 heures dessus, hein, tellement il y a à dire encore une fois.
Ok, t'as 30 secondes.
Je sais bien, j'essaie de faire, mais déjà il faut comprendre un petit peu l'historique de comment en gros on en est arrivé là. Il faut savoir qu'en fait, ce mythe du cholestérol, il est parti des États-Unis. En fait, c'est dans les années 60 où il y a un scientifique qui s'appelle Ansel Keys, qui était en fait un épidémiologiste, qui a essayé d'étudier pourquoi aux États-Unis, il y avait de plus en plus d'infarctus, etc. Et finalement, de fil en aiguille, il en est arrivé à conclure que c'était donc le cholestérol, par des études en plus qui ont été totalement biaisées, hein, qui s'appelle l'étude des 7 pays. Et quand on comprend comment cette étude a été faite, elle est complètement biaisée, donc pas du tout valable. Et donc depuis que lui a émis cette hypothèse du cholestérol, en fait il y a les pouvoirs publics qui s'en sont apparés, il y a la politique qui s'est mêlée dedans, en plus de ça il y a les industries sucrières qui ont fait pression aussi, parce que bien évidemment il y avait d'autres scientifiques qui essayaient de montrer que c'était non pas le cholestérol mais les sucres responsables, donc les sucres raffinés, hein, responsables des maladies cardiovasculaires, et donc les industries sucrières forcément essayer d'étouffer ces histoires-là et donc financer, donc donner des subventions à cet Ansel Keys pour que ces recherches prennent de l'ampleur. Et donc, du coup, on a tout mis sur le dos du cholestérol. Donc, je vous dis, après, la politique s'en est mêlée, etc., etc. Donc, les recommandations de santé également. Et depuis, donc des décennies ont passé, on en est toujours resté sur ce cholestérol qui serait dangereux, etc., etc. Alors qu'en fait, quand on comprend un petit peu mieux la physiologie des maladies cardiovasculaires, et qui est hyper complexe. Et on ne peut pas résumer comment on peut avoir le mépris de résumer quelque chose d'hyper complexe comme les maladies cardiovasculaires à une seule molécule qui, non seulement est vitale, comme tu l'as dit, Ben, parce que elle est nécessaire à plein de choses, à la formation de toutes nos hormones notamment, mais en plus de ça, que notre organisme produit lui-même. Donc comment quelque chose qu'on produit nous-mêmes pourrait être nocif, voire mortel, c'est complètement aberrant. Donc, du coup, ce qu'il faut également comprendre, c'est que le cholestérol, c'est un type de gras particulier. Et donc, il ne faut pas confondre tous les gras ensemble, si vous voulez. Donc, le fait d'apporter du gras alimentaire, ça ne veut pas forcément dire qu'on apportera du cholestérol. Donc, il y a plein d'autres facteurs qui interviennent sur les maladies cardiovasculaires.
Le fait que c'est quelque chose qu'on produit majoritairement nous-mêmes, notre alimentation, finalement, a pas beaucoup d'effets en fait, sur notre niveau de cholestérol. C'est-à-dire que ça l'influe, oui, mais pas tant que ça, en fait. C'est assez minime.
Exactement, c'est ce que j'allais dire finalement. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'alimentation, en fait, elle apporte à peu près, on dit, entre un tiers et un quart, en fait, du cholestérol total de l'organisme. Il faut savoir que les trois quarts, on les produit nous-mêmes, donc c'est le foie qui le produit. Et tenez-vous bien, qu'est-ce qui va également stimuler la production du cholestérol? C'est notamment, encore une fois, l'insuline. On y revient à ça. Donc l'insuline, elle est provoquée par quoi? Par les glucides. Donc souvent, une augmentation de cholestérol peut être un reflet, finalement, notamment, pas que, mais d'une alimentation qui est riche en glucides. Donc finalement, le cholestérol, il faut plutôt le voir comme le reflet de quelque chose qui est en train de se passer dans l'organisme et qui, du coup, est en train de créer des maladies cardiovasculaires, plutôt que comme une cause réelle. D'accord? Donc c'est plutôt le cholestérol, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, en fait. Voilà, c'est quelque chose, un annonciateur qui annonce que quelque chose, en gros, donc toutes les causes, par contre, qui sont responsables de l'augmentation du cholestérol et des maladies cardiovasculaires, voilà, qui sont là et qui sont en train de se développer. Donc, c'est plutôt cette partie immergée qu'il convient d'explorer. Donc, je vais quand même les citer quelques points. Donc, il y a tout ce qui concerne l'oxydation, donc le fait d'avoir pas assez d'antioxydants dans l'alimentation. C'est tous les phénomènes donc, d'insulinorésistance. Donc, en gros, c'est l'insulinorésistance, c'est en gros ce qui va précéder le diabète. Et ça, c'est incroyable, parce que c'est le diabète, c'est vraiment un facteur de risque énorme au niveau cardiovasculaire.
Juste un commentaire là-dessus. Quand tu parles d'insulinorésistance, j'aime toujours rappeler, j'en profite du coup, que le premier signe du développement de l'insulinorésistance, c'est la petite brioche. La petite brioche qu'on a autour de la taille, c'est le tout début. Et c'est un truc, la brioche qu'on développe, que beaucoup de gens développent vers 30 ans, 40 ans, c'est pas juste parce qu'ils sont plus âgés, en fait. C'est qu'ils sont en train de devenir... Parce qu'avec l'âge, en fait, on devient plus insulino-résistant. Donc, avec une même alimentation, un même mode de vie, si on continue en fait, à avoir un apport que notre corps ne peut pas gérer au fur et à mesure qu'il devient insulino-résistant, et ben en fait, on développe cette petite brioche petit à petit. Alors, c'est sûr, si on a juste un petit bourrelet de trois fois rien autour de la taille, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas courir aux urgences, mais il faut comprendre que c'est le signe avant-coureur. Voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, pas de souci, mais au contraire, c'est une bonne remarque parce que du coup, ça me permet d'enchaîner. Donc, cette petite brioche dont tu parles, en fait, ça s'appelle ce qu'on appelle l'obésité androïde, si je ne me trompe pas. Donc en fait, voilà, il n'y a pas besoin d'être obèse finalement pour être insulino-résistant. Il y a des gens qui sont de corpulence, on va dire normale, mais qui ont juste cette brioche au niveau du ventre, et c'est déjà justement un signe annonciateur d'insulino-résistance qui, rappelons-le, va précéder le diabète et dans tous les cas, c'est un facteur de risque cardiovasculaire énorme. Et qui peut s'accompagner justement d'une augmentation du cholestérol, mais cette augmentation du cholestérol, ça n'en est qu'une conséquence finalement. Ce ne sera en aucun cas la cause de maladies cardiovasculaires. Donc, on ne peut pas résumer l'immense complexité des facteurs et des interactions qui existent entre ces facteurs qui vont construire les maladies cardiovasculaires à simplement résumer une molécule qui est le cholestérol. C'est non seulement simpliste, minime et faux, en fait, tout simplement.
En plus, ce qu'on mesure lorsqu'on s'intéresse au cholestérol, on ne mesure pas le cholestérol, on mesure les lipoprotéines.
C'est exactement ça, parce que...
Les lipoprotéines, voilà. En français, je ne sais plus, c'est ou protéines.
Si, les lipoprotéines, tout simplement.
Ouais, lipoprotéines,
ouais. Oui, alors effectivement, ça, c'est une bonne remarque aussi, parce que donc ça, c'est connu dans le grand public sous les mauvais et bons cholestérol, entre guillemets, sachant qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais cholestérol, c'est toujours la même molécule. Mais ce qu'on mesure quand on fait des prises de sang, on mesure en fait le cholestérol qui est contenu, parce que dans le sang, le cholestérol est transporté par des transporteurs qui sont des sortes de petites capsules, si vous voulez. En fait, on va mesurer ces capsules, en fait, ces différentes capsules. Donc, il y a des capsules qui vont partir du foie et qui vont aller distribuer le cholestérol. C'est des sortes de navettes, en fait. Donc, ces navettes qui vont amener du foie vers les tissus, donc vers les organes. Et il y a d'autres navettes qui vont ramener le cholestérol des organes vers le foie. Et donc, en fait, c'est ça qu'on mesure. Donc, on ne mesure pas le cholestérol en tant que tel. On mesure plutôt des transporteurs, des navettes. Et d'ailleurs, c'est même une erreur de mesurer... Enfin, en fait, on mesure le cholestérol qui est contenu dans ces navettes. Mais en fait, on devrait plus, finalement, ce serait plus judicieux de mesurer le nombre et la taille de ces navettes-là, parce que c'est ça qui peut faire que ça va effectivement rentrer dans les artères et constituer la plaque d'athérome, plutôt que la quantité de cholestérol total. En fait, c'est comme si on fait une analogie, c'est comme si on comptait, dans le cas classique, en fait, on compte les passagers d'une voiture, alors qu'il faudrait mieux compter le nombre de voitures. Effectivement, sur une autoroute, il y a plus de risques d'accident quand il y a beaucoup de voitures, même s'il n'y a qu'un passager à l'intérieur, plutôt que quand il y a beaucoup de passagers, mais peu de voitures. Voilà, donc je ne sais pas si l'analogie est claire, mais c'est un peu pareil pour les maladies cardiovasculaires.
La manière dont je l'ai vu expliquer, et j'avais trouvé ça intéressant, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis de mieux comprendre le système, c'est que donc, ces fameuses lipoprotéines, donc si vous regardez sur votre prise de sang, vous verrez, il y aura écrit HDL, LDL, voilà. Ouais. Donc, ce qui nous préoccupe, en général, le HDL, on ne s'en préoccupe pas, parce que c'est celui qu'on appelle le bon cholestérol. Et celui-là, par contre, on le mesure. C'est-à-dire qu'on mesure le cholestérol total, on mesure le HDL, mais par contre, celui qu'on appelle le mauvais cholestérol, ben, on ne le mesure pas du tout. En fait, dans la prise de sang standard, hein. Je sais qu'il est possible de le mesurer, mais quand je vais aller chez mon médecin faire une prise de sang, enfin, je vais aller au labo faire une prise de sang, on ne va pas du tout mesurer, en fait, ce mauvais cholestérol, soi-disant mauvais cholestérol. On va le calculer. Donc, on n'est même pas sûr. Hein. Donc, on suppose qu'il est là, mais... Donc, ce qui nous intéresse, donc, c'est ce fameux LDL. Et ce LDL, en fait, là où il devient problématique, il devient uniquement problématique s'il est oxydé. Donc, oxydé par quelque chose dans le sang. Parce qu'en soi, avoir du LDL, c'est normal, hein, comme tu expliquais. Donc, c'est une fonction de l'organisme. C'est un transporteur. Le problème, c'est que bah, de temps en temps, il faut les traiter dans le foie. Et ils ont un petit récepteur. Donc, c'est un peu... Faut avoir ça comme... comme une sorte de carte passe pour pouvoir passer dans le foie, quoi. En l'occurrence, c'est une protéine, je crois, qui est dessus. Mais cette protéine, en fait, elle peut être oxydée, elle peut être endommagée. Et donc, du coup, elle ne sera plus reconnue par le foie. Et ce LDL, du coup, reste dans le sang. Ce qui peut perturber, du coup, ce bon fonctionnement, qui devrait être normalement un cycle qui se renouvelle de lui-même. Hein. C'est-à-dire que le LDL remplit son office... et ensuite le foie le traite, en fait, sans rentrer dans le détail, mais le traite et puis on n'en parle plus. Mais le truc, c'est que là, il arrive au foie, il n'est pas reconnu parce qu'il a été endommagé, et ce qui l'endommage, c'est le sucre, le glucose, en fait. Donc, en fait, beaucoup de glucose dans le sang, ça crée une oxydation de ce LDL, enfin d'un récepteur du LDL pour être précis, et donc du coup ce LDL n'est pas traité par le foie, et donc il y a une accumulation. Et il y a d'autres systèmes dans le corps qui sont là pour traiter, en fait, ce genre de détritus. Qui sont du coup les parois des artères, hein, une sorte de macrophage, faut voir ça comme des grosses cellules qui mangent un peu les déchets, quoi. Mais s'il y a énormément, énormément de déchets, et ben ces macrophages, ben, ils deviennent gros, en fait. Ils grossissent, hein, et à tel point qu'ils peuvent boucher une artère. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Donc, en gros, c'est ce LDL, s'il ne peut pas être traité par le foie parce qu'il a été endommagé par trop de sucre dans le sang, du coup, il peut se retrouver à boucher l'artère, non pas parce qu'il s'accumule et il fait un bouchon, c'est juste qu'il est absorbé dans la paroi de l'artère et à force, ça peut faire du coup des petits bouchons. Quoi.
Ouais, enfin, c'est intéressant.
C'est à peu près bon, enfin, ça te paraît ouais, juste. Moi, c'est comme ça que j'ai compris.
Ouais, c'est à peu près juste, j'avais juste quand même complété sur certains trucs. Alors, c'est qu'effectivement, ces fameuses navettes donc de LDL cholestérol, elles peuvent être, comme a dit Ben, transformé, modifié. Donc, il y a d'une part le glucose qui peut non seulement oxyder, mais également créer ce qu'on appelle une glycation. Hein. Donc, une glycation, c'est le fait que le sucre, en gros, vient se coller sur des protéines, en fait, des protéines de la navette qui transporte le cholestérol. Et il y a également d'autres facteurs donc, qui peuvent oxyder cette navette. Ben, c'est tout simplement quand on est en carence d'antioxydants. Donc, les antioxydants, c'est ce qu'on trouve dans les fruits et les légumes, la vitamine C, la vitamine E, notamment, tous les polyphénols, les caroténoïdes, plein de choses comme ça. Donc, quand on est en carence, ça déjà, ça prédispose à une oxydation. Mmh. Donc, quand ces petites navettes, elles sont oxydées, bah, effectivement, elles ne sont pas reconnues par… Alors, c'est non pas spécialement par le foie, mais c'est plutôt, dans le cas des LDL, en tout cas, c'est plutôt les cellules périphériques. Donc, quand ces cellules périphériques ne sont pas capables de capter ces petites navettes, bah, en gros, bah, justement, elles vont avoir tendance à traverser notamment les artères, hein, donc, du coup. Et elles vont être reconnues par des cellules immunitaires, en fait, que tu as citées, Ben, qui sont les macrophages dans les artères. Et ce qui va se développer, c'est tout simplement une réaction inflammatoire. Parce qu'en fait, les macrophages, ce sont des sortes d'éboueurs immunitaires, vont se gaver de ces navettes qui ne sont pas reconnues par personne d'autre, finalement. Et en se gavant de ces navettes de cholestérol, et ben, les macrophages vont devenir ce qu'on appelle spumeux. Ça va devenir des cellules spumeuses, hein, donc, ça veut dire mousseuses, entre guillemets. Donc, ça, et du coup, c'est ça qui va créer une réaction inflammatoire. Et donc, en fait, la plaque d'athérome dont on parle dans l'artère, c'est ni plus ni moins qu'une réaction inflammatoire. En fait. C'est un infiltrat de cellules de l'immunité qui va proliférer en disant « attention, il y a un danger, il y a quelque chose qui s'accumule ». Et c'est cette inflammation, on sait que l'inflammation, sur le plan chronique, c'est tout à fait délétère. Ça va créer des modifications structurales au niveau des artères, ça va créer du stress oxydant, ça va créer plein de choses. Et c'est ça, finalement, la physiopathologie, en tout cas simplifiée, de la plaque d'athérome et donc, à terme, des maladies cardiovasculaires.
Et tu as en plus, il y a un examen sanguin pour le coup qui quelque part mesure bien mieux les risques liés à ces transporteurs, enfin on va dire les risques liés au cholestérol, qui est plus fiable en termes de lecture que l'examen classique de cholestérol. Encore une fois, je précise qu'il y a un examen classique parce qu'on peut avoir une mesure beaucoup plus précise du LDL, mais c'est un examen qui coûte plus cher, en général on ne le fait pas. Mais donc la prise de sang standard, en général, je n'ai pas les noms hein, parce que ce n'est pas mon truc, mais l'examen standard, en général, ne mesure pas les LDL. Par contre, on peut aller regarder un autre examen qui se fait typiquement chez les diabétiques, qui nous donne une très bonne idée de comment le LDL est présent dans le corps. C'est l'HbA1c. Et donc, ouais. L'HbA1c, en fait, nous donne une indication du taux de glycation. Du LDL, c'est ça?
Tout à fait. Alors, simplement, j'aimerais juste mettre un bémol sur ce HbA1c, hein, donc, que les diabétiques qui nous écoutent connaîtront bien. C'est simplement que ce phénomène de glycation, c'est quelque chose déjà tardif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne survient que quand on est déjà diabétique, donc que quand on a déjà en fait, une glycémie qui est augmentée. Donc, en fait, la glycation, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de trop tardif, alors qu'il se passe déjà plein de choses, alors qu'on n'est encore que insulino-résistant. Ouais, quand on n'est que encore insulino-résistant, la glycémie, elle est encore normale. Et du coup, la glycation, elle n'est pas encore importante. Pourtant, malgré que la glycémie soit normale et le fait qu'on soit insulino-résistant, en fait, il se passe déjà plein de choses de néfastes. Donc, en fait, l'hémoglobine glyquée, c'est déjà un marqueur donc, qui est certes très intéressant, mais malheureusement trop tardif. Il y a plein d'autres, par contre, marqueurs qui existent qu'on peut investiguer pour un peu investiguer tous les paramètres dont on a parlé, notamment le LDL oxydé, par exemple. Mais il y en a plein d'autres. Hein, on pourrait faire.
C'est quelque chose qui est. Enfin, voilà. Du coup, on a présenté, on a mis le cholestérol en fait sur le devant de la scène à tort parce que c'est juste un élément dans un rouage et les problèmes de santé qu'on observe, qu'on a attribués au cholestérol en fait sont plutôt liés. Aux transporteurs sont plutôt liés à d'autres, en fait, sont liés à ce transporteur qui est le LDL, sont liés à son interaction avec le sucre, et ce qu'on met dans son assiette, en fait, sur notre assiette, a quasiment peu d'effet sur le niveau de cholestérol. Finalement. C'est pas exact, mais oui, enfin.
C'est les sources de cholestérol alimentaire auront peu d'effet sur le cholestérol. Sur le cholestérol sanguin, on va dire.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, en tout cas, merci d'avoir pris un peu de temps pour nous décrypter un peu ça. Il y a un autre sujet qu'on s'était gardé, parce que déjà, tu voulais en parler, et en plus, je trouve que c'est assez raccord. Je pense que tu pourras peut-être nous faire une analogie de cyclisme pour l'expliquer. C'est l'acide lactique.
Ouais, donc l'acide lactique, en fait, voilà, ça c'est un peu comme le cholestérol, si vous voulez, c'est une connaissance qui s'est ancrée dans les mœurs et qui ne change pas, alors qu'en fait, physiologiquement, on sait tout à fait maintenant comment ça se passe. Et le simple fait déjà de parler d'acide lactique, c'est déjà une erreur en soi. Donc ça, c'est surtout les sportifs, coachs sportifs qui parlent de ça. Parce que l'acide lactique en tant que tel n'existe pas sous cette forme dans l'organisme. En fait, ça existe sous forme de lactate. Mais du coup, le fait d'entendre acide lactique, dans l'esprit des gens, eh bien, on fait tout de suite, on dit, tiens, acide, donc acidification. Donc, douleur musculaire, donc crampe. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. L'acide lactique, qui n'est du coup pas présent sous cette forme, mais bien sous forme de lactate, n'est en rien pourvoyeur d'acidité. Donc, l'acidité est liée à d'autres phénomènes. On ne va pas rentrer dans les détails physiologiques, bien qu'on pourrait, mais voilà, ce qu'il faut juste insister, c'est que le lactate n'est en aucun cas source de crampes, et même mieux que ça, c'est-à-dire que le lactate, c'est même une source de carburant dont va se servir le corps pour refabriquer du glucose. Donc, c'est même hyper bien et hyper intéressant que le lactate, en fait, soit là, parce que ça permet donc d'être réutilisé en tant que carburant, et ça permet également d'éviter que notre filière énergétique qu'on appelle la glycolyse, donc la dégradation du glucose pour en faire de l'énergie, ben le fait de produire des lactates, en fait, ça empêche que cette glycolyse, elle s'arrête lorsqu'on fait des efforts qui sont importants. Donc, c'est très salutaire, en fait. Le lactate, c'est hyper bien qu'il s'en passe.
Donc, le lactate, c'est quelque chose que l'on produit pendant l'effort. Donc, c'est quoi? C'est une sorte de résidu de la combustion énergétique C'est quoi juste ça vient d'où ce truc? Ça se matérialise pas de nulle part.
Oui. Ça vient effectivement, c'est une sorte de résidu qui dérive du glucose. Hein, donc le glucose étant l'une des sources de carburant principales, en tout cas pour les efforts intenses. Et donc effectivement, lorsque la demande en énergie est tellement grande, qu'il y a des sortes de résidus un peu comme le monoxyde de carbone d'une chaudière, quoi. C'est un résidu qui est imbrûlé, enfin qui est mal brûlé. Voilà, c'est vraiment une analogie très simple. Et donc le lactate, il va dériver en quelque sorte du glucose lorsque la demande en énergie est trop importante. Donc c'est la preuve, en fait, le lactate, que l'organisme fonctionne en absence d'oxygène. Quand il n'y a pas suffisamment d'oxygène pour satisfaire l'effort, eh ben, l'organisme va produire du lactate à partir d'une partie du glucose. Donc c'est ça le lactate, en fait. Et ça permet justement, en fait, de produire le lactate selon une voie qui est parallèle, si on veut, à la voie principale, donc qui est la glycolyse. Ben, le fait de faire cette voie parallèle permet un peu d'éviter que cette glycolyse, elle s'arrête, pour faire simple. Je ne vais pas rentrer dans les détails biochimiques, non pas que je ne le pourrais pas, mais ce serait un peu complexe. Voilà, donc c'est quelque chose, une molécule qui dérive finalement du glucose, si on veut bien.
Et oui, du coup, aucun rôle, par contre, dans le fait d'avoir des crampes.
Non, pas du tout, c'est lié à plein d'autres... Enfin, en tout cas, ce n'est pas ce qui limite l'effort, et même les crampes, c'est lié à plein d'autres phénomènes. Il y a des phénomènes qui sont liés aux minéraux, par exemple, il y a plein d'autres choses qui pourraient éviter que... Mais le lactate, non, le lactate va être, comme je vous dis, réutilisé sous forme, donc pour refaire du glucose, donc pour refaire de l'énergie. Et l'acidification, en fait, des muscles, elle n'est pas due au lactate, puisque le lactate n'est déjà plus sous forme acide. Mais c'est dû, en fait, à... quand on fait un effort qui est très, très important, en fait, on va brûler beaucoup de notre énergie, donc qui est l'ATP. Hein. L'ATP, c'est vraiment la monnaie universelle énergétique du vivant. Donc, quand on fait un effort très, très important, qu'est-ce qui va se passer? On va dégrader cet ATP. Et en dégradant cet ATP, quand on regarde la réaction chimique qui se produit, quand on appelle une hydrolyse de l'ATP, donc quand on coupe l'ATP, et on va produire quoi? On va produire des ions H+. Donc en fait, c'est ça qui va acidifier le milieu. Donc en temps normal, quand on fait un effort qui est d'intensité modérée, enfin normale, ces ions H+ qui sont produits, on est capable de les renouveler et du coup de les réinclure dans une molécule d'eau, en fait. Parce que l'eau, c'est H2O, donc il y a deux hydrogènes, donc ces ions H+, on va les réintroduire dans de l'eau. Mais quand l'effort est tellement important, en fait, le système ne peut pas renouveler suffisamment vite ces ions H+, qui vont s'accumuler et s'acidifier, mais parce qu'il y a eu beaucoup d'ATP qui est utilisé de façon très, très intense, parce que l'effort est très intense. Parce que le lactate, on le produit en fait que dans les efforts très intenses.
D'accord, et c'est donc du coup, ça c'est intéressant, parce que cette notion d'intensité, moi qui suis plutôt adepte d'efforts d'endurance de longue durée, c'est typiquement le genre de truc où je peux, si le seuil d'intensité est suffisamment bas, je tape essentiellement jamais dans mes réserves de glycogène, et du coup j'ai l'impression de ne pas brûler de glycogène du tout, de sucre du tout, donc du coup c'est presque cohérent que j'ai pas non plus besoin de reproduire, enfin de régénérer en fait cette source de glucose avec du lactate. Enfin, ça a du sens. En revanche, au fur et à mesure que ma fatigue musculaire augmente, mon effort en fait augmente aussi. si je veux maintenir un même niveau de performance. Et là, ça serait plus cohérent que dans un état de fatigue, du coup, je rentre dans un seuil d'intensité où je vais justement produire du lactate parce que je vais commencer à épuiser un peu dans mes réserves, quoi.
Ouais. Et donc du coup, alors ce que j'aurais pu préciser aussi, c'est que quand je parlais d'efforts importants, alors typiquement, moi, il y a un exemple que j'aime bien citer qui est assez représentatif de l'effort en fait type qui produit du lactate, c'est par exemple un 400 mètres.
Ouais.
Si vous regardez l'athlétisme, un 400 mètres, alors là, on est vraiment dans le typiquement dans l'effort qui produit des lactates, c'est-à-dire c'est un sprint long, un sprint en résistance. Voilà, et ça va vraiment, l'effort est tellement intense en fait que vous allez produire du lactate. Donc c'est typiquement ce genre d'effort. Je voulais dire quelque chose aussi, je sais plus. Oui, donc finalement, le lactate, comment il faut le voir, c'est plutôt un reflet. C'est le reflet du mode de fonctionnement énergétique de l'organisme. Donc, si vous avez des lactates dans le sang, ça veut dire que votre organisme fonctionne sans oxygène pour faire d'énergie. Ça veut dire que l'effort que vous êtes en train de faire est très intense. Mais ce n'est pas ça qui va vous limiter dans l'effort, en fait. C'est juste une conséquence qui va s'accompagner d'autres phénomènes qui, eux, vont limiter la contraction musculaire. Mais le lactate n'est là que pour accompagner et c'est en aucun cas une cause. Donc, il faut bien distinguer la présence de quelque chose et la cause. Ce sont deux choses différentes.
Ouais. Oui, bah oui, c'est ça. Et du coup, comprendre que c'est pas parce que on va s'entraîner qu'on va forcément avoir des crampes parce que l'effort est intense. Il y a des choses que j'ai entendues en fait sur ces notions de crampes et qui a fait allusion, c'était la dimension des minéraux, par exemple. Alors le truc qu'on entend toujours dans la course à pied, j'imagine que dans le cyclisme ça doit exister aussi, c'est manque de sodium, de potassium, enfin, en gros manque de sel, quoi. C'est souvent ça qu'on va décrire comme étant une source de crampes. Après, il y a une explication que j'ai entendue qui me paraissait finalement presque plus cohérente, c'est juste de faire un effort qui est au-delà de du seuil de confort de ton muscle, en fait, hein. Et que du coup, ça peut être en fait une sorte de spasme qui a lieu parce que tu as poussé super, super fort par rapport à ce que tu es capable de faire. Mais je sais pas vraiment ce qui se vaut, mais les deux explications me paraissent assez cohérentes.
Hein. Disons que c'est multifactoriel, on peut peut-être pas mettre encore une fois le dos sur un seul facteur, mais en fait, une crampe, c'est quoi? C'est le muscle en gros qui va tétaniser, qui se contracte alors qu'il devrait pas. Et on sait que, en gros, un muscle, comment dire, c'est une cellule, hein, et cette cellule, elle a une sorte de potentiel électrique, un peu comme une pile. Et des fois, en fonction justement que en défaut, quand même malgré tout, de certains minéraux, il y a une régulation des minéraux qui entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule musculaire qui se fait moins bien, et du coup, ça va changer ce potentiel électrique de la cellule, ce qui fait que la cellule du muscle sera plus facilement contractible, je ne sais pas comment on dit, excitable en tout cas, alors que pour une stimulation qui sera inférieure en fait. Donc, pour une stimulation habituelle qui normalement n'aurait pas entraîné une contraction du muscle, dans certains cas, quand ce potentiel électrique de la cellule est mal régulé, donc justement quand il y a des fuites de certains minéraux ou quand il n'y a plus suffisamment d'énergie, donc le fameux ATP, pour permettre justement les échanges et de ces minéraux à travers la cellule, la cellule, en gros, elle va être excitable pour une intensité qui sera plus faible que d'habitude. C'est ça qui peut faire en gros un spasme, alors qu'habituellement, rien ne se serait passé. Mais après, il y a plusieurs causes, effectivement, qui peuvent entrer en jeu.
Oui, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup plus de choses. Et ouais. Cette idée de cette notion de l'acide lactique, en fait... Je l'entends régulièrement dans le discours sportif te dire cet effort est bien, tu vas faire de l'acide lactique, ou alors t'as mal parce que t'as de l'acide lactique. Enfin,
voilà.
C'est pas aussi simple que ça, quoi. Enfin, déjà parce que comme tu l'as expliqué, il y a pas d'acide lactique, c'est du lactate, mais en fait c'est les crampes, c'est pas ça, quoi. Enfin, ça vient vraiment d'ailleurs. Je sais pas, moi je fais quand même pas mal de sport, jusqu'à 30 heures d'entraînement par semaine quand même, donc je pense que je suis plutôt dans le haut du panier, jusqu'à, attention, pas toutes les semaines. Et le truc, c'est que j'ai quasiment jamais eu de crampes, jamais. Enfin, j'en ai eu avant, quand je faisais pas de sport. Ouais. Les crampes, ça m'arrivait régulièrement. Maintenant, quasiment jamais. Je veux dire, si on suit cette logique-là, je devrais avoir des crampes plus souvent. Enfin, vraiment. Et même sur mes efforts les plus intenses. Alors, c'est vrai que tu as pris l'exemple du 400 mètres, qui est du coup une épreuve courte, ouais. Mais très intense, pour le coup. Ouais. Enfin, là, vraiment, on monte difficilement plus haut dans les tours que sur un 400 mètres. Je trouve ça même plus intense que le 100 mètres, mais ça, c'est une question de point de vue. Mais le truc, c'est que même sur des épreuves plus longues, donc des épreuves d'ultra-endurance, en fait, tu finis par rentrer dans un seuil d'intensité qui est élevé, surtout lorsqu'on parle de courses de trail, par exemple, où tu te trouves à affronter des gros dénivelés, ou même en y allant tranquille, de toute façon, l'effort est important, et lorsque tu rajoutes la fatigue musculaire, etc. Donc, tu es vraiment sur des seuils d'intensité qui peuvent être assez élevés. Et moi, je sais pas, j'ai jamais eu de crampe, quoi. Je suis loin d'être le meilleur athlète du monde et je me pousse sur des trucs qui sont beaucoup trop difficiles pour moi régulièrement. Tu dirais, mais à un moment ou à un autre, il va falloir qu'il y ait une crampe, mais pourtant, ça n'arrive pas. Et donc, je sais pas ce que je fais à côté qui fait que ça n'a pas lieu, mais si on suivait la logique que l'acide lactique provoque des crampes, vu que je me mets dans des situations où je fais des efforts intenses, qu'ils soient courts ou longs, parce que je fais les deux. Bah, je devrais avoir des crampes. À un moment ou à un autre, c'est obligé d'arriver. Et je suis loin d'être le. J'ai rien de spécial, quoi. Je suis pas un cas isolé, quoi.
Ouais.
Donc, rien que ça, pour moi, ça valide complètement ce que tu dis. Sinon, ouais. ça pourrait pas marcher.
Ouais, tout à fait. Alors, après, il y a les crampes d'une part, mais il y a aussi, au-delà des crampes, il y a aussi le fait d'être limité dans l'effort. C'est-à-dire que des fois, quand on regarde un événement sportif et qu'on entend les commentateurs, ils disent. Je ne sais plus ce qu'ils disent, mais en gros, ils disent que la personne, elle est limitée dans son effort, elle ne peut pas donner plus. Par exemple, justement, en fin de 400 mètres, dans les derniers 100 mètres, les commentateurs vont dire là, il est bloqué parce qu'il a trop d'acide lactique. On n'est pas dans le cas d'une crampe, on est dans le cas vraiment d'une limitation physiologique de la contraction musculaire. Et même là, encore une fois, les lactates ne sont en rien impliqués là-dessus. En fait, la contraction musculaire qui va être mise à mal, elle est due à plein de facteurs, mais notamment à l'acidification locale des muscles. Mais cette acidification, encore une fois, elle est due à l'hydrolyse de l'ATP et pas au lactate, puisque le lactate n'est déjà plus sous forme d'acide, il n'est que en lactate. Donc, c'est surtout l'acidification en fait, des muscles qui va engendrer, et aussi d'autres facteurs, c'est également la baisse du niveau d'ATP dans le muscle qui fait qu'il se contractera moins bien. Donc ça, pareil, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tout ça pour dire que le lactate, que ce soit pour les crampes ou la limitation de l'effort, ça n'est en rien impliqué, c'est même au contraire bénéfique. D'ailleurs, en termes de santé, parce que là, on parle de sport, mais j'irai même plus loin, si on veut parler de santé, quand on fait par exemple un infarctus du myocarde, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une artère du cœur qui se bouche. Et donc, dans ce cas-là, le cœur, il est ce qu'on appelle en anoxie, donc il ne reçoit plus d'oxygène. Donc, s'il ne reçoit plus d'oxygène, il ne peut plus faire d'énergie à partir d'oxygène. Donc, il va produire du lactate. Donc, c'est justement sa voie de secours. Donc, c'est ce qui permet en grande partie, donc ce lactate qui est formé, il va pouvoir l'utiliser. Notamment en source d'énergie. Donc, c'est quelque part salutaire. Ça permet de limiter la casse. Ça permet de limiter les dégâts et les lésions qui surviennent, par exemple, dans le cas d'un infarctus du myocarde. Donc, c'est très bien, au contraire, qu'on produise du lactate.
C'est super intéressant, ça. Ouais. Bah, du coup, ouais, non, je savais pas du tout, tu vois. Donc, mais ça explique bien, du coup, le fait que ce système soit vraiment décorrélé, en fait, que ça soit pas du tout la même chose c'est pas une espèce de produits de l'effort qui crée des crampes, quoi. Enfin, je pense que ça, c'est la meilleure illustration, c'est que effectivement, c'est une source d'énergie comme une autre. Enfin, c'est une forme. Parce que on a un organisme tellement complexe, en fait, et on sait tellement bien réutiliser tout ce qu'on produit, en fait. On est quand même assez efficace. Mine de rien, à réutiliser les choses. Enfin, le meilleur exemple de ça, c'est qu'on détruit nos cellules pour réguler la glycémie. Tu vois, enfin, les vieilles cellules ou les vieilles protéines, on sait les détruire, entre guillemets, hein, mais ouais. Les recycler pour réguler le glucose dans le sang. Enfin, ça, je trouve ça génial, l'idée que tu reprends en fait, genre des protéines, tu vas juste réutiliser les protéines de l'organisme et dire, bah, tiens, il en faut un petit peu ici, on va en mettre un peu là, on va en mettre un peu là. J'ai besoin de ça ici, enfin tu vois. Et un des exemples, je trouve les plus intéressants de ça, pour moi en tout cas, c'est dans les situations de jeûne, lorsque les gens font un jeûne, en début de phase de jeûne, en fait, ils dépendent des protéines. Et on avait tendance à dire que c'était de la protéine musculaire, c'est-à-dire qu'on disait oui, quand tu jeûnes, tu perds du muscle. Et je regardais donc ce que certains spécialistes du jeûne. Alors, je ne sais pas s'il y en a en France, mais là pour le coup, ils étaient canadiens. Mais expliquer, c'est qu'en fait, c'est pas du tout du muscle que tu es en train d'utiliser, tu es en train de réutiliser en fait des cellules de protéines qui étaient plus nécessaires. Et donc, par exemple, chez quelqu'un qui perd du poids, souvent tu as de la peau en rab, tu as beaucoup de peau qui reste de quand tu as perdu du poids. Et donc, ça, cette peau, elle sert plus à rien parce que il n'y a plus le tissu adipeux pour la remplir. Et donc, tu utilises cette protéine comme source de carburant. Enfin, tu te dis, mais c'est bien super fait, bien ouais. Foutu le corps humain. Quoi. Enfin, c'est assez clair. Impressionnant. Édouard, merci beaucoup d'être venu ouais. Et d'avoir éclairé plein de sujets comme ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où on peut te trouver, suivre ce que tu fais? D'ailleurs, tu reçois des gens en consultation de toute façon. Donc, tu peux nous donner un peu les détails de ça?
Donc oui, bah, où est-ce qu'on peut me trouver? Alors déjà, vous pouvez suivre ma page Facebook. Hein, donc je suis sur Facebook. Donc vous tapez Docteur Édouard Courreau -6 nutrition, micronutrition et santé. Donc là, vous trouverez pas mal d'infos donc à titre gratuit. J'ai également donc un site internet micronutrition.hubside, donc HUBSIDE.fr. Voilà. Et j'ai également une page Instagram hein, donc que vous au même nom que ma page Facebook, hein, Dr Édouard Courreau, Nutrition Santé. Vous trouvez tous les liens sur le site internet micronutrition.website.fr. Donc, je reçois donc, également en consultation donc, des patients pour soit des rééquilibrages alimentaires ou même des contrôles de santé assez divers et variés. Donc, on peut mesurer par des prises de sang finalement des plein de facteurs. Donc, on a cité tout à l'heure. Pour tout ce qui est notamment les maladies cardiovasculaires, on peut mesurer plein de facteurs qui ne sont pas mesurés en médecine classique et qui permettent d'investiguer un petit peu ce qui se passe et de prédire en termes de risque cardiovasculaire. On peut également mesurer tout un tas de micronutriments, sélénium, zinc, cuivre, vitamine D, pareil, parce que ça, vitamine D, on est tous hyper carencés, donc c'est hyper important. Donc voilà un peu moi comment je procède. Et en fonction des demandes aussi des patients, adapte comment on fait quoi. Il y en a qui sont pour qui c'est des carences en fer chronique, il y en a pour qui c'est des problèmes de thyroïde, il y en a pour qui c'est il y a plein de finalement de problèmes de santé qui peuvent être rattachés de près ou de loin à la micronutrition. Mais je pense que le côté cardiovasculaire c'est vraiment un peu ma tasse de thé.
Puis c'est vrai que tu viens de l'en citer, mais on n'est pas rentré dans l'ultra détail de la micronutrition déjà parce que c'est ultra vaste comme sujet. Des simples carences en minéraux, je veux dire, j'en vois tout le temps. Et le classique, c'est le manque de fer chez les femmes, mais pour X raisons d'ailleurs. Mais bon, tu vois, enfin, je pense que beaucoup de gens sous-estiment le potentiel impact sur leur santé de certains manques. Donc, moi, je conseille toujours de lorsqu'on s'intéresse à sa santé, de commencer par des prises de sang. Pour avoir une idée de où on en est. Ensuite, si on va faire quelque chose, ensuite, mesurer ce suivi. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours simple parce que c'est un peu difficile en France parfois d'avoir certains examens. Donc, c'est des conversations qui peuvent être un petit peu particulières avec les spécialistes. À raison, je veux dire, il y a une certaine rationalisation derrière ça, c'est-à-dire qu'il y a des examens qui coûtent cher. Et du coup, on essaie de pas encourager les gens à les faire dans tous les sens sans raison. Donc mais c'est vrai que pouvoir faire un bon bilan de santé c'est déjà un bon début. Et je pense qu'il faut trouver un médecin qui est prêt à nous accompagner là-dessus. Je pense que c'est essentiel. Et du coup voilà, avoir une bonne idée de où on en est sur ces différents micronutriments, mieux comprendre son niveau de cholestérol, enfin c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe, au moins le mesurer correctement. Même si on a bien expliqué qu'ici que c'était pas forcément quelque chose sur lequel il fallait obséder, contrairement à ce qu'on a pu dire par le passé avec cette histoire d'un seul kiss, mais voilà. Moi, en tout cas, je mettrai les références vers ton activité dans le lien de l'émission.
Merci, avec plaisir.
Et je te remercie pour une conversation passionnante en tout cas.
Bah, merci à toi en tout cas de m'avoir invité, c'était avec plaisir et puis. Pour une prochaine fois, peut-être encore avec plaisir.
Ah bah, tu viendras nous faire un volet sur le rôle du zinc et du fer. Alors. On se prévoit 8 heures, on fait un live comme ça.
sans problème.
Bon, merci beaucoup, Edouard.
Ah, merci à toi.
Bon, si à l'épisode 18, vous n'êtes toujours pas abonné et que vous n'avez toujours pas mis une note sur Apple Podcast, je sais pas quoi vous dire. Allez, je vous demande quand même de continuer de partager le podcast autour de vous et surtout de continuer les super commentaires que vous m'envoyez. Je vous en lis un de Parlons Cette Eau sur l'épisode 8 avec Benoît Nave. Merci Ben pour la qualité de tes invités. J'ai adoré cet épisode, je l'ai écouté en plusieurs fois et je me suis surprise à écouter puis revenir en arrière pour réécouter et mieux comprendre. Je m'intéresse de plus en plus à l'approche nose to tail pour me rapprocher un peu de ce pourquoi notre corps a été designé. Et le passage sur les antioxydants a un peu déstabilisé mes croyances. Je vais aller creuser ce point-là. Pour moi, elle est là la richesse de ce podcast, donner des billes pour qu'on puisse aller plus loin et se poser plus de questions. Alors déjà, merci pour ce commentaire. Et petite parenthèse sur Parlons Céto, c'est un podcast tout récent qui a été lancé par trois passionnés de cétogenèse et qui mérite un détour si le sujet vous intéresse. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.